Bonjour à tous, mon nom est Anthony Lassalle et vous écoutez Le mot magique. Et oui, bienvenue au mot magique, ce podcast où il ne suffit que d'un seul mot pour avoir des discussions pendant une heure. Ça fait 15 épisodes qu'on dit ça, puis finalement, il n'y a pas un maudit épisode qui dure une heure quand je pense à ça. Hein.
C'est vrai, ça.
On dit plus d'une heure, non?
Ah, ben, ouais, plus d'une heure. Ouais, oui, c'est vrai, il y en a qui disent ça.
Il y a rien, on dit qu'on veut.
Pendant plus d'une heure.
Pendant environ une heure et demie, 1h45.
À peu près, ouais.
Si affinité.
Oui. Mais parlant de si affinité, Félix, t'as-tu joué beaucoup au Kinball cette semaine?
Ben, écoute, c'était formidable. J'ai appris comment faire des passes. J'ai perfectionné mes glissades en fait. Je suis prêt pour les Olympiques.
Ah, mon Dieu, ben, on s'entend que ça sera pas pour demain matin non plus, les Olympiques au Kinball.
Après-demain.
Ah, OK. Bon.
Hey, est-ce que tu es en train de dénier le rêve du créateur du Kinball?
On en a parlé de lui, hein?
Oui, c'était ça. Je l'avais dit, c'était sa vision. Il voyait ça aux Olympiques, lui.
Moi, j'ai dit que c'était un joliétain, puis j'ai jamais trouvé l'info
c'est
nulle
trop
part.
Pas
non,
vrai.
Mais c'est pas vrai.
J'ai fait mes recherches.
Ceux qui m'entendent en ce moment, partez la rumeur, s'il vous plaît. Pour Joliette, faites ça pour Joliette.
Sinon, Laurent, j'ai une question pour toi.
Oui.
Je veux savoir, est-ce que je peux manger tes boulettes ou tu vas les manger après?
Tu peux les manger quand tu veux.
T'as compris qu'est-ce que je voulais dire, hein?
Tu passes d'occupation double.
Et voilà.
Ouais,
moi, c'est un de mes moments préférés.
Une chance, pas la une chance, pas la, c'est pas la deuxième fois qu'on enregistre. Hein.
Ça serait bien fâchant, ça, maudit.
J'aurais pas compris.
Et voilà.
Là, j'ai compris. Mm-hmm. Gab aussi a compris.
Mais oui, j'ai compris.
Je pense que les deux, on s'est délectés de l'émission.
C'est une des meilleures répliques que j'ai entendues.
Ouais,
mais attends, j'aimerais ça connaître le contexte, par contre, parce que j'écoute pas Occupation 2, j'ai juste vu cette scène-là popper un peu partout sur Facebook, puis il paraît que c'est bien drôle.
Moi, j'aimerais
mais...
pas connaître le contexte.
Ah, ben
est-ce
là,
que
toi,
tu
là,
le comptes
garde,
ou je le compte, Laurence?
Ça, je veux pas me battre pour ça, Gabriel. Je vais te le laisser parce que ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu parler.
Ouais, le grand retour.
Ouais, non, mais c'est... oui, mais ça, attends que tu penses que je vais t'introduire aussi en même temps. Salut, Gabriel.
Hey, salut.
On s'était-tu assez ennuyé?
Moi, je m'étais ennuyé de vous autres, là. Je vous écoutais, hein, je vous écoutais quand même.
C'est quasiment triste que la première chose qu'on te demande de faire, c'est de parler d'occupation double. Mais
eh
bon,
ben
Laurence t'a envoyé.
Hey, enfin, quelqu'un qui m'en parlait avec moi.
C'est comme si tu me lançais une fleur.
Ben écoute, prends-le comme tu veux, je te laisse.
Ben, je peux t'expliquer l'histoire des boulettes. C'est que Olivier, qui est le couple quétaine avec Paisy depuis le début de la série, là, de la saison en fait, je devrais dire, ils sont vraiment plates à regarder à la limite là, parce qu'ils sont rendus à dire je t'aime, là, genre à télé. Pis tout,
ah, là. Wesh!
Oh, ouais,
puis à se dire t'es à moi.
Ouais.
Mal officiel, ça.
Ouais, t'es à moi, pis tout. Pis ils se regardent, mais on dirait que c'est comme non. On dirait que t'as le goût des shaker des fois. Pis là, ce qui est arrivé, c'est que Paisy, c'est l'ex de Cendric de la saison dernière. Cendric, ils l'ont ramené dans le show. Ils l'ont ramené pendant un épisode. Ils l'ont fait rencontrer Paisy parce qu'elle allait pas bien. Pis là, ils ont comme jasé ensemble, pis ils ont dit. On a comme compris qu'ils sortaient encore ensemble juste avant qu'elle aille là-bas.
Ben, il avait cassé, mais en tout cas.
En tout cas, elle avait dit qu'elle avait cassé Olivier. Fait que là, dans le souper d'élimination, ils ont mis la télé puis ils ont montré ça dans la face à Olivier. Et là, il a comme catché qu'il avait menti sur des affaires. Fait que là, ça lui a brisé son petit cœur. Puis là, il est comme allé dehors parce qu'il y avait de la peine. Ça résume.
Ben oui.
Fait que là, quand
il y avait
est allé dehors...
Il vivait beaucoup d'angoisse, pour vrai.
Ouais.
Il avait vraiment pas l'air affilé.
Je pense que comme Yann qui a dit l'histoire des boulettes, là, il a comme voulu briser un peu comme... Tu sais, faire une joke, mais il est comme vraiment... dit « Tu vas-tu manger tes boulettes? » Puis tout. Puis il a dit « Ah non, c'est correct, prends-les. » Il s'est vraiment pris. C'est juste ça.
Moi, je pense que Yann, c'était vraiment naïf, mais ça, c'est mon point de vue. J'aime ça le croire comme
être.
Ça.
Ça se peut aussi, hein. Ça
ben,
se peut qu'il y ait des gens
naïfs. Ouais, il est comme pas souri. Il voulait vraiment juste manger ses boulettes, man.
Bon, ben, on a une autre dose d'occupation double pour la semaine,
pour
je pense.
Pour le mois, peut-être.
Ah, je vois.
Pour le mois. Ben,
c'est pas fini, c'est pas fini.
Ah, ça a fini dans deux
c'est
semaines.
Ça. Non, vous l'avez pas pour le mois.
Ah, on a ça, c'est hâte. OK. Ouais, je voulais vous parler aussi. Ben écoute, cette semaine, ça a été la fin de la saison de NASCAR, hein, imaginez-vous donc.
Ah.
Ben, en fait, la semaine passée.
Ouais.
Et je dois te demander aussi, Félix, toi, t'es un fan. Non, mais t'es un fan de Formule 1,
oui.
Mais toi, est-ce que tu suis un peu de NASCAR?
Zéro.
Puis, justement, puis comme beaucoup de monde, mais je veux savoir, c'est quoi la différence? Pourquoi est-ce qu'il y a du monde qui vont suivre la F1, mais pas la NASCAR, puisque des courses de chars, c'est des courses de chars, on va se le dire?
Oui, puis non. En fait, la Formule 1, pourquoi j'aime ça? C'est que il y a de la stratégie. Il y a un jeu de. Pour moi, c'est du suspense. Il faut gérer les pneus, il faut gérer la compétition, il faut, Par exemple, il y a un endroit dans le circuit où qu'on peut dépasser, donc le pilote va pratiquer sa manœuvre, va se préparer pendant 10 tours en avance, alors que des ovales, donc le NASCAR ou l'IndyCar, ça tourne en rond surtout. Donc, ben, moi, j'aurais pas de problème à regarder le NASCAR sur des circuits normaux, mais sur des ovales, des ovaux, je capote un peu moins.
Ça existe-tu du NASCAR ailleurs que dans des ronds? Il y en a-tu dans les vrais circuits?
Oui, il y en a quelques-uns, là, mais c'est environ 5 circuits sur 72. Là. J'ai pas les chiffres exacts, mais ce genre de course de voiture-là, avec des voitures normales, pas monocoque comme la Formule 1, il y a ça en Europe, le DTM. Ça, c'est Mercedes, Audi et compagnie sur des circuits normaux, donc pas des ovales.
OK. Parlant de char, est-ce qu'il y en a... Est-ce qu'il y en a qui ont des autos autour de la table?
Non.
Est-ce qu'il y en a qui conduit?
Non. Oui.
Non? Ou toi, t'as une auto?
Oui.
Ah oui.
Ah, OK. Ça veut dire que t'es contre l'environnement, si je comprends.
Oui.
Ouais. Ah, 100%.
Ouais.
Laurence environnement.
Oui.
Parce que t'as vu qu'est-ce qui s'est passé avec Catherine Dorion récemment aussi, hein?
Oui.
Puis ce qui paraît que maintenant, quand tu possèdes une voiture, tu peux pas être pro-environnement.
Non.
Mais je te l'apprends.
Non, je sais. Non, moi, je jette mes boîtes de carton dans la poubelle tout de suite. J'ai mis en feu. J'ai mis en feu, puis je les mets dans la poubelle. Mes pneus de verre aussi, quand je suis bon, j'ai mis en feu.
Ça, je sais pas, c'est des arguments pour les familles, là, mais...
Ah, ben oui, non, mais... Non, oui, il y a du monde qui vont dire « Ah, ben c'est pratique, parce que, mettons, si tu veux te rendre d'une ville à l'autre, il n'y a pas nécessairement de transport commun. » Tu sais, bon, ça, c'est des pécadilles, là, regarde, à un moment donné. Bon, mais aussi, il y a un autre... je voulais parler des francophones en Ontario aussi, hein.
Je sais pas si
c'est... What are you talking about?
Non, mais ça a l'air qu'il y en aurait.
Il y en a.
Comme, je dis ça comme ça. J'en ai jamais vu. Fait que bon. Mais,
on voit pas ça existe.
Non, mais parce que il y a eu ce débat-là. Puis récemment, il y a François Legault qui a rencontré le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford.
Ouais.
Puis je trouve ça tellement cute parce que les deux se sont échangés des chandails de hockey, des Maple Leafs. On aurait dit comme deux petits enfants qui se partagent, genre, comme des petits cadeaux, comme ça, quand ils se voient. Puis ça m'a fait penser justement au thème d'aujourd'hui qui est.
L'enfance.
Et voilà, et voilà. Et justement, c'est drôle parce que pour. Oui?
Mais non, mais je sais où que tu t'en vas, je suis déjà emballé à ce que tu vas dire.
Ah,
prépare-toi.
Oui, parce qu'on n'est pas tout seul autour de la table, puis Laurence est contente parce que c'est pour une fois, c'est pas la seule femme autour de la table.
Elle capote.
Oui, et on a un invité cette semaine, c'est Marianne Dunbury.
Hello.
Salut Marianne.
Allô.
Salut Marianne. Que je suis bien accueillie.
Comment ça va?
Ça va très bien, vous autres.
Ça va super bien, merci.
Excellent.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Marianne, toi, tu es éditrice adjointe et gestionnaire de production aux éditions Les Malins.
Yes, c'est en plein ça. Maintenant, on peut même dropper le adjointe. Je suis éditrice du cours.
Oh! Wow! Félicitations!
Depuis quand, Colin? C'est pas tant clair, genre.
Ah, oh, OK.
Juste c'est arrivé naturellement.
Ouais, à un moment donné, c'était comme, tu pourrais peut-être dropper l'adjointe.
C'est comme un couple, ça. Tu sais, au début, tu...
Exact. On a DTR, Chris.
C'est ça.
Ils ont dit ça de même. Oh, drop ça, là.
Oui,
puis,
oui.
Et voilà.
Marc-André, si tu m'entends, tu m'as dit, drop l'adjointe.
Mais je voulais savoir, c'est quoi la job d'une éditrice?
Ben, il y a plein d'éléments à ma job, mais je te dirais que comme le grand mystère, là, que les gens veulent vraiment savoir ce que ça fait, moi, dans le fond, je travaille les textes avec les auteurs. Donc, à partir du moment où on décide qu'un texte va être publié, moi, je fais le travail d'aller-retour avec l'auteur. Donc, c'est moi qui va lire les textes, dire ce qui fonctionne pas, qui va un peu conseiller l'auteur sur la façon de rendre son texte le meilleur possible. Puis c'est ça, c'est beaucoup d'aller-retour avec un artiste. Des fois c'est facile, d'autres fois ça l'est moins, mais tu sais, on travaille pour le même but. Le but, c'est que le livre devienne the best in the West.
Mais je suis curieux parce qu'en fond, toi, tu t'interfères un peu dans le travail de l'auteur.
Ouais.
Est-ce que les auteurs, est-ce qu'ils sont ouverts justement à, parce que c'est de la critique en bout de ligne.
Ouais.
Est-ce que eux, souvent, est-ce qu'ils sentent que tu viens un peu modifier l'œuvre, si je peux dire, ou ils sont conscients que comme ah, c'est pour rendre mon travail meilleur?
Ben, c'est ce qu'il faut leur rappeler un peu des fois. Puis je suis vraiment chanceuse parce que les auteurs avec lesquels je travaille, c'est tous des amours, là. Puis je pense qu'ils comprennent généralement assez bien la nature de mon travail. Mais tu sais, quand un auteur a un peu l'impression que tu es là pour lui mettre des bâtons dans les roues, faut lui rappeler que tout le monde travaille pour le même but, puis il y a une team en arrière d'eux, puis notre but, c'est que son livre soit la meilleure version possible de ce qu'il a créé, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que des fois, il y a des choses moins faciles à négocier, surtout quand on demande des gros changements, mais de façon générale, ouais, les auteurs sont vraiment ouverts à... à accepter ce qu'on leur propose, puis ils se fient à notre expertise assez bien.
Puis toi, tu travailles à la maison d'édition Les Malins.
Oui.
Et si je me trompe pas, c'est spécialisé surtout dans la littérature jeunesse.
C'est en plein ça.
De là notre thème d'aujourd'hui.
Yes.
Et je me demandais aussi, comme en tant qu'adulte, parce que en fait, j'imagine que c'est un choix aussi que tu as fait.
Oui, oui, absolument. Moi, je voulais travailler dans le domaine jeunesse.
Et pourquoi, en tant qu'adulte, qu'est-ce qui vient te chercher dans la littérature pour enfants?
Ben, parce que moi, j'ai toujours été une malade de livres, de lecture, là, dès que j'ai su lire. Même en fait, avant même de savoir lire, je me mettais le nez dans les livres quand même. Puis à ce jour, je pense que les lectures qui m'ont le plus marqué, puis je ne vais pas parler pour les autres, mais souvent, quand je discute avec les gens, c'est ce qui ressort, que les lectures qui les ont le plus marquées, c'est leur lecture de jeunesse, tu sais, quand on était primaire, début secondaire. Bref, quand on est encore en train de se former en tant qu'être humain, là, ça participe à former notre caractère puis à déterminer la personne qu'on va devenir. Fait que moi, j'ai toujours été un peu fascinée par ça, ou l'âge où on se laisse marquer par les histoires, puis de me dire que je peux contribuer à amener ça à des enfants, mais je trouve ça quand même... cool.
Ouais. Est-ce que tu as un peu écrit toi-même?
Oui, par la force des choses, en ce sens que j'ai fait quand même pas mal d'études universitaires. Fait que j'ai écrit, mais j'ai écrit beaucoup d'essais académiques, ce genre de choses-là. Fiction, non. J'en ai fait un peu dans mes cours, mais la création littéraire, c'est vraiment pas mon jam. Puis je pense que souvent, les gens ont un peu tendance à croire que si t'es éditeur, c'est que tu écris aussi ou que tu veux écrire. Mais c'est vraiment, à mon sens, deux domaines qui sont vraiment distincts, là, l'écriture et l'édition.
Ben oui, parce qu'il faut que t'ailles un sens d'analyse incroyable.
Ouais. Ben c'est ça, tu sais, je pense que pour être éditeur, il faut vraiment être un lecteur dans l'âme.
Ouais, ben oui.
Dans le sens que, ouais, c'est ça, il faut que tu sois en mesure d'accumuler une espèce de bagage de connaissances, parce que c'est comme ça aussi que tu vas être capable de conseiller tes auteurs. Puis, tu sais, un autre volet de mon travail aussi, c'est de décider ce qu'on veut publier puis ce qu'on publiera pas. Fait que pour ça, il faut bien connaître ton marché, il faut bien connaître ce qui se fait déjà, ce qui est déjà publié, ce qui s'écrit, c'est quoi les trends. Fait que je pense que l'important, c'est surtout d'avoir une culture de lecture.
Puis toi, qui est grande. Est-ce que tu lis comme souvent plusieurs livres à la fois dans ta semaine, là, pour le plaisir?
Ah, OK. Pour le plaisir, j'essaie de m'en tenir à un ou deux, genre un de fiction et un de non-fiction.
Ouais.
C'est sûr que dans le cadre de mon travail, j'ai comme pas le choix de lire beaucoup de livres en même temps. Mais pour mon plaisir, je lis énormément. Là. Mes temps libres sont pas mal juste dédié à ça. Je suis vraiment une malade de livres. Mais ouais, lire trop de livres en même temps, on dirait que comme je finis par me perdre dans les histoires. Puis j'aime mieux vraiment là, m'immerger là, dans une histoire puis la vivre.
Mais c'est ça qui est le fun d'un livre aussi.
Ben, c'est ça, exactement. T'sais, parce que quand je lis pour moi, je lis pour m'évader puis je lis pour avoir du fun. Fait que je me concentre sur une histoire à la fois.
Donc, si je comprends bien, quand tu travailles, tu lis. Donc, tu es à ton bureau et tu lis.
Oui, je passe mes journées devant un ordinateur, puis je lis, puis je décortique les textes. Puis, tu sais, avant de publier un livre, je peux l'avoir lu comme 6 fois. Là.
Wow.
Oui, oui. Fait qu'il faut à la fois lire vite et être capable de lire avec beaucoup d'attention.
Ça, c'est des années de travail. Parce
c'est un skill qui s'acquiert avec le temps.
Spoiler alert, tu sais, je te connais depuis tellement longtemps que je sais que la lecture a tellement toujours fait partie de toi que pour moi, t'es comme une Crosby de la lecture.
Oh my God, le compliment.
Mais t'as tellement ça en toi depuis tellement longtemps que là, c'est facile. T'as le degré d'analyse que le commun des mortels peut pas avoir, mais que toi, tu sais qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher.
Ben, tu sais, c'est ça. Je pense que c'est un peu quasiment un prérequis là, que d'être un tripeux de livres en partant. Puis bon, après, tu sais, il y a des gens avec qui je travaille qui sont éditeurs, mais qui n'ont pas fait d'études en littérature et qui font incroyablement bien leur job.
C'est une question
de
marché aussi, comme tu dis, il faut que tu connaisses le marché.
Ben, c'est ça. Puis tu peux déjà le connaître avant d'arriver, puis tu peux aussi apprendre sur le tas un coup que t'es là. Puis j'en ai appris beaucoup de choses sur le tas là, en travaillant. Mais tu sais, c'est sûr que je pense que le fait que je m'intéresse à ça depuis longtemps puis que j'ai fait un bac de maîtrise en littérature, ça aide au bagage que j'ai en arrière de moi. Voilà.
Je voulais savoir aussi à quel point c'est différent d'écrire de la littérature jeunesse versus le reste de la littérature. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une idée préconçue comme quoi que d'écrire pour des enfants, c'est plus facile. Mais non, ça, tu me fais non tête. Non, parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en considération quand même. Parce que quand on écrit pour un public enfant, j'imagine que, tu sais, faut parce que les enfants, c'est quand même un public difficile.
Ben oui, incroyablement difficile.
Mais à quel point, en fait, de quelle manière c'est différent de plaire à ce public-là versus un public plus général, si je peux dire?
Ouais, ben en fait, un enfant, tu sais, on dit tout le temps les enfants, c'est cruel un peu, là, mais c'est vrai aussi mm-hmm. en littérature, dans le sens que s'ils trouvent ça plate après 3 pages, là, ils vont le sacrer au bout de leur bras puis ils ne voudront plus jamais rien savoir. Tandis qu'un adulte, bon, tu sais, ça nous est tous déjà arrivé, là, je veux dire ça, puis vous allez probablement faire comme « Ah oui ». T'sais, tu commences un livre, là, c'est un peu lent, puis là, tu as 2-3 chapitres de lu, mais tu te dis « Ah, mais mon ami m'a dit que c'était vraiment bon, c'est comme rien, ça va finir par décoller. » Puis là, ben finalement,
rien,
tu donnes...
Ça.
C'est ça, finalement, tu donnes la peine, puis bon, ça décolle ou ça décolle pas, après, ouais. Ça dépend. Mais tu sais, on a plus tendance à donner la chance au coureur, mais un enfant, ça a besoin d'être stimulé comme là, maintenant, puis d'autant plus de nos jours où... Tu peux les mettre devant une vidéo YouTube, ça va leur prendre 0.3 secondes, ils vont être omnibilés par ça.
C'est fort. On va parler de ça tantôt.
Ben oui, ben oui.
Mais voilà, petit lien.
À cause de ça, est-ce que tu penses que les livres ont dû s'adapter à ce genre de stimulation-là? Par exemple, les livres qui étaient publiés il y a 15 ans pour les jeunes, par exemple, l'action, est-ce que ça a été prouvé que c'est mieux maintenant que ça arrive dans les premières lignes, dans les premiers chapitres?
Ben, c'est mieux ou c'est moins bon. Ça a rapport avec le contexte. T'sais, si on se rapporte au Québec, dans les années 20, c'est là que la littérature proprement jeunesse est apparue. Parce qu'avant ça, les enfants lisaient juste les mêmes affaires que les adultes.
C'est ça.
Mais de nos jours, en fait, l'affaire, c'est ça. C'est on n'a pas le choix d'être en compétition parce qu'il y a du divertissement, c'est du divertissement. Il y en a qui provient d'un paquet de médias différents. Puis là, nous, ben, on n'a pas le choix de compétitionner avec la télé, avec l'Internet, avec un paquet de trucs. Puis oui, ça change notre façon de travailler beaucoup parce que ce qu'on appelle le shelf life d'un livre est beaucoup moins long mm-hmm. qu'avant. Ah. Fait que là, de nos jours, mettons, un livre jeunesse, son shelf life, son espérance de vie, ses tablettes de librairie, c'est 2 à 3 mois.
C'est pas beaucoup.
C'est incroyable.
Ah ouais. Après, il y a des exceptions à ça.
Mais qu'est-ce qui fait quoi, que ça l'a réduit à ce point-là?
Ben, c'est qu'il y a comme une espèce de culture de l'instantanéité où tu veux toujours du nouveau, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que nous, dans la maison d'édition où je travaille, on fait beaucoup de séries. Puis c'est une des raisons pour lesquelles on fait beaucoup de séries, c'est que faire du stand-alone, fait qu'un livre qui est publié seul, c'est dur de défendre un livre comme ça parce que tu sais qu'il va vivre 2-3 mois ses livres avant de se faire oublier sur les tablettes avant de se faire oublier par le public, tandis qu'une série, ben, ça a une espérance de vie plus grande.
C'est quoi, un attachement.
C'est quoi votre série qui marche le mieux?
La vie compliquée de Léa Olivier.
C'est vrai, je le savais. Ah.
Non, c'est un phénomène incroyable.
C'était fou. Les plus longues files d'attente au Salon du Livre cette semaine,
oui.
C'était à votre pièce.
Puis on a eu des files records cette année.
Ça avait
Bravo,
pas
Catherine.
De bon sens.
c'est fou, puis on est quand même ben chanceux. Nos auteurs et les malins, on travaille pour, là, mais tu sais, on est assez chanceux pour avoir des auteurs qui ont tous un très, très grand succès. Fait que, ouais, on a de la file à gérer des salons.
C'était plus long que Michel Tremblay. Là.
Ah oui, ah, ben, on a eu, je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que Catherine a eu la plus longue file.
Ah, moi aussi, non, ben. Je peux te le confirmer, puis plus qu'une fois même.
Ah oui, oui, oui. Samedi, ça a été la plus longue ever, je pense.
Ouais,
c'était
intense.
Mais les matinées scolaires et le dimanche, non, définitivement.
Ouais. Mais quand même, place. Il est quand même un succès, dans le sens que tout ce que tu nous as dit avant, c'est la preuve que c'est vrai, puis que ça, ce que vous faites, ça marche aussi, parce que, tu sais, comme ce cas-là, ça s'appliquait pas à tout le monde, là.
Non, définitivement pas. Puis tu sais, c'est un petit peu difficile. En fait, je m'en prends, c'est impossible de prédire un tel succès parce que l'industrie du livre, c'est une industrie du prototype, dans le sens qu'à toutes les fois qu'on sort un livre, on prend une chance, on vend pas des cannes de bine, là, dans le sens que on prend une chance, puis on espère, puis on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour que une série ou un livre décolle, puis mm-hmm. pogne, puis c'est sûr que si on le publie, c'est parce qu'on nous, on trouve ça bon, puis on pense que ça va avoir du succès, mais des fois, il y a quelque chose où on se dit que ça va avoir un succès mitigé, puis finalement, ça part en flèche, puis ça nous surprend. Ou au contraire, quelque chose qu'on se dit ça va être écœurant, puis finalement, ça tombe un peu à l'eau, puis on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Puis c'est qu'il y a une part de chance, parce que c'est pas toujours possible de prédire ça va être quoi, les espèces de fluctuations des trends ou du marché.
Il y a quand même une dose de hasard là-dedans.
Ben oui,
ça dépend aussi de ce que les autres sortent comme livre.
Exactement. Puis tu sais, nous, on peut pas avoir le nez dans la concurrence tout le temps non plus.
Ben non.
Fait que ouais, c'est ça. T'sais, oui, la moyenne, c'est de se dire que l'espérance de vie d'un livre sur les tablettes d'une librairie, c'est 2 à 3 mois. Mais tu sais, des belles exceptions, il y en a. Puis on est toujours content quand il y en a.
C'est... Toi, t'es éditrice de livres pour enfants.
Ouais.
Puis je voulais en venir à tes livres à toi personnellement qui t'ont touché quand t'étais plus jeune. Puis je pense qu'il y a un titre en particulier qui t'a marqué plus qu'un autre.
Dis ça parce qu'elle a un tatou dans l'arrière de la rue.
Je sais pas c'est quoi l'indice qui aurait bien pu faire deviner.
Je la voyais tout le temps avec ses « Où est Charlie à l'école? »
C'est ça.
Pour Charlie, là, oui, c'était ce
Charlie que j'ai de tatou derrière l'oreille.
Son guide de l'auto à chaque fois.
Écoute, every time.
Mais oui, je te laisse le dire toi-même.
Mais oui, c'est Harry Potter. Je sais, c'est don typique pour une millennial de mon âge.
Mais en plus, tu parles de ça, mais le Harry Potter, c'est pas nécessairement l'unanimité autour de la table. Non,
En ce moment, oui.
Toi, personnellement, qu'est-ce qui est venu te chercher, puis à quel point ça t'a influencé dans ta décision d'aller dans le domaine que t'es présentement?
Honnêtement, je dis à qui veut bien l'entendre que la raison pour laquelle je suis éditrice aujourd'hui, c'est à cause de Harry Potter. Là. C'est vraiment...
Mais écoute, je te crois, parce qu'on a été amis Facebook pendant un certain temps.
Ben oui.
Et pour vrai, à chaque fois que je voyais un post d'Harry Potter popé sur mon actualité, je voyais ton nom, ouais, je voyais ton nom attaché au-dessus, puis je me dis, évidemment.
Bien entendu. Ben écoute.
C'est pour ça qu'il n'y a plus ton ami Facebook.
Boum!
Il a dit, on a été amis Facebook pendant un certain temps.
Mais comment ça, on n'est plus amis Facebook,
là? Non, mais parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus.
Écoute,
on fait un ménage.
On va remédier à ça.
C'est bon.
Mais oui, pour en revenir à Harry Potter, c'est l'histoire de ma vie, pour en revenir à Harry Potter. Mais bref, c'est que...
Ça va être ton autofiction.
C'est exactement ça. Par la concordance du temps, parce que le premier tome est sorti en anglais en 97 et en français en 98. Oui, oui, je connais toutes ces dates-là.
Quel mois, déjà?
C'est sorti en...
Je pensais pas que t'allais répondre pour de vrai.
Décembre en anglais et l'été d'après... En français?
Écoute,
je
suis étonné. C'est bon.
Je pense. Là, j'ai sûrement comme des super fans qui sont en train, qui ont le goût de me donner un coup de bâton présentement parce que c'est pas ça du tout, mais qu'importe. Fait que, ouais, j'étais pas très vieille, je commençais même pas à lire, mais il y a un très bon ami de notre famille qui est un. Il est courtier, ça n'a aucun rapport avec la littérature, mais c'est un craqué de livres. Puis il avait conseillé ces livres-là à mes parents. Alors que c'était même pas encore connu.
Ouais, c'est ça que j'allais te dire.
Ah, je suis une fan de la première heure.
Okay,
là.
Real.
Moi, je me suis déguisée 3 ans en Ron Weasley, ma sœur en Harry, puis ça a pris 2 ans avec les petites mesdames à porte carrée de dire les belles petites sorcières, OK?
Oh.
Personne connaissait ça, on était vraiment tout seul dans notre gang.
Avant le film.
Ouais, fait que c'est ma mère qui nous les lisait, puis qui avait comme inventé des voix pour les personnages. Fait que ça a été comme une activité familiale avant d'être comme de la lecture seule.
Cool.
Un des premiers livres que j'ai lu par moi-même, ça a été Harry Potter. Ça a été la même chose pour ma sœur. Puis j'ai vraiment grandi avec le personnage jusqu'à ce que je sois jeune ado, tu sais. Fait que, il n'y a pas beaucoup de séries comme ça, je pense. En tout cas, il n'y en avait pas avant là, qui avait marqué une génération comme ça.
T'avais à peu près le même âge. Moi, c'était ça, là. Je pense que j'avais exactement l'âge à chaque fois qu'il y avait un livre qui sortait.
Oui, c'est ça. Moi, j'étais un peu plus jeune, mais...
Oui.
Mais puis, je sais pas. Il y a comme quelque chose dans cet univers-là qui, je pense... Puis, je parlerai pas juste pour moi, parce que de toute évidence, ça n'a pas rien qu'un appeal pour moi. Ça lieu pour, genre, des millions de lecteurs.
Moi, j'ai jamais entendu ça.
Jamais, hein. C'est quoi ça? Mais, ouais, je pense qu'il y a quelque chose dans la façon dont elle construit son univers qui fait résonner chez... tous les enfants, ou à peu près tous les enfants qui l'ont lu, puis il y a comme une espèce de qualité en arrière de ce qu'elle a inventé qui est irrésistible, puis je me suis juste fait happer. Ouais. J'ai comme pas d'explication logique à donner. Là.
Dans tes études, as-tu fait des travaux d'études sur ça?
Oh, j'ai fait mon mémoire de maîtrise.
T'as fait ton mémoire sur Harry Potter?
T'es gâtée.
Absolument. Oui, ben oui, parce qu'en fait, j'ai fait ma maîtrise en littérature jeunesse, ben en children's literature.
Ah ouais?
Oui, ben oui, on revient pas. Hein. J'étais allée à Trinity College à Dublin pour faire ma maîtrise, puis...
Ah ben là, T'as clairement visité les places d'Harry Potter.
ben oui, c'est principalement en Angleterre puis en Écosse là, mais j'en ai profité pour aller faire un tour. J'en ai profité pour aller faire un tour
moi
en Angleterre.
Aussi, je vais en faire une maîtrise d'abord.
puis ouais, bah à la fin, c'est ça, il fallait choisir une thématique, un sujet pour notre mémoire. Puis j'ai quand même hésité parce que j'ai eu plusieurs personnes qui me disaient, parle pas de quelque chose que t'aimes trop parce que tu vas l'haïr à la fin. Tu sais, puis je me suis dit. Je veux vraiment pas haïr Harry Potter. Mais
Tu parles là-bas, t'aimes Harry Potter, tu reviens, t'aimes le Seigneur des Anneaux.
J'aime déjà beaucoup Seigneur des Anneaux, t'as deux petites places dans mon palmarès. Mais puis finalement, j'ai décidé de pas écouter ces gens-là. Puis je me suis dit, Colin, je vais le regretter toute ma vie si je fais pas mon mémoire sur Harry Potter. Puis je l'ai pas regretté une seconde, je suis super contente. J'ai cool. adoré.
Est-ce qu'il y a
ça.
Des choses qu'on doit savoir que t'es sorti de ça que. En pressant,
peu connu.
Ouais.
De peu connu. Ben,
je sais pas.
J'ai comme eu une opinion controversée. J'ai un peu bâché J.K. Rowling.
Oh.
Mais j'ai vraiment comme. Oui. Ouais. Pas... Puis tu sais.
Qu'est-ce qu'elle a fait, personne,
qu'est-ce qu'elle m'a fait, la pauvre? Mais en fait, pour vous faire un résumé incroyablement rapide de ce que je raconte dans les 75 pages de mémoire, moi, c'est dans le fond l'argument que je mets de l'avant, mm-hmm. là, c'est que dans les tombes, à partir de la fin du tome 4 jusqu'à la fin de la série, le monde des sorciers est plongé dans une espèce de dystopie.
Ouais, c'est clair. Là.
Voilà, donc le pire des mondes, plutôt que le meilleur des mondes, qui est une utopie. Puis moi, ce que je dis, c'est une dystopie depuis le début, même dans les trois premiers tombes. Le monde des sorciers, c'est de la merde! Fait que j'argumente que c'est une espèce de société totalitaire, mais que par différents jeux narratifs, l'auteur réussit à faire croire au lecteur que c'est une utopie et non pas une dystopie. Ce que je dis, c'est que J.K. elle nous roule puis elle essaie de nous faire passer des idéologies totalitaires vraiment dégueulasses, mais tu sais... je le pense pas vraiment, OK? Là, non, je l'aime d'amour, J.K.
C'est une observation, mais j'avoue que quand on y pense un peu, c'est vrai que dans les premiers livres, tout a l'air magique, puis quand tu commences à comprendre le ministère, puis tout, là, c'est comme...
Ouais, c'est de la magouille.
C'est ça.
Croche, pour moi, c'était un parallèle incroyable avec plein de choses qu'on voit dans la vie.
Ben ouais, c'est...
Donc pour ça, je pense qu'une des forces d'Harry Potter, c'était autant pour les plus jeunes que les moins jeunes.
Oui, il y a plein de...
Ben oui,
il y a
plein de choses
qu'on fait comprendre.
Puis souvent, c'est ce qui fait qu'un produit culturel jeunesse, là, que ce soit un livre, une émission ou quoi que ce soit, va pogner à grande échelle, c'est que ça s'adresse au public plus jeune, oui, mais ça va aussi s'adresser au public plus vieux qui est un peu comme pogné pour l'écouter, le regarder ou le lire. Avec les enfants, puis justement, dans Harry Potter, il y a quand même, tu sais, il y a plusieurs niveaux, là, c'est
mais
pas
il
juste...
Mais commence tranquillement, comme les films dans les premiers livres, mais il t'ouvre la porte sur plein de choses, là, je veux dire...
Ah, ben oui, absolument.
Ça aurait pas été pertinent qu'il parle du ministère de la magie direct en partant.
Mon Dieu, ça aurait été épouvantable.
Je pense que personne n'aurait voulu le lire. Non,
la corruption dans le ministère, là.
C'est
le fun parce que les cinq autour de la table, on est une génération qui a grandi avec Harry Potter.
Ouais, ah, vraiment. Ben oui, vraiment, là, je pense que ça a marqué notre enfance... Ouais. Tout le monde, puis tu sais que je pense que pour les gens qui ont aimé ça, comme ceux qui ont moins aimé ça, pour ceux qui les ont toutes lues, comme ceux qui se sont refusés à lire, on n'a pas pu s'empêcher d'être baigné là-dedans un moment ou un autre. Là.
Puis Marianne,
oui.
C'est quoi ta maison?
Gryffondor.
Ah!
Oh!
All the way!
Yeah, parce qu'on dit notre maison en même temps?
Ah ouais, je veux savoir.
Poufsouffle!
Poufsouffle!
J'aime full les poufsouffles.
On est tellement poufsouffle en plus.
T'es quoi, Félix?
Poufsouffle!
Pour vrai? Poufsouffle,
t'as aussi
le fait?
Oui!
Ah, moi, je suis serre-d'aigle.
Ah, ben là, on a toutes les mains. Ah, il manque ça.
Non, je me fie au test que je faisais. Ben oui.
Pottermore.
Avez-vous fait ce test de Pottermore? Ouais, c'est la seule réponse qui vaut la peine.
Moi, j'ai Claudimar, c'est le serpenteur.
Ben oui.
Ah, c'est bien.
Hey, Claudimar voudrait qu'on y fasse au prochain épisode live. Genre, on va savoir enfin il est dans quelle maison, même s'il veut dropper.
Vraiment le forcer à le faire.
Ah non, je pensais, Marianne, tu l'avais fait sur BuzzFeed.
Ouais, écoute, je suis consciencieuse que ça. Je les ai toutes faites et je n'ai jamais été sort dans une autre maison que Gryffondor.
Wow. Le test que j'ai fait, c'est un vieux test dans le temps, quand j'étais tout petit, puis c'était comme sur mon Windows à 98.
Ah, ben là, va faire celui de Pottermore, ça presse, là.
Ah, ben là, je vais
faire des animations
bien pendant. Félix.
Anthony, toi, tu parles du vieux site officiel dans le temps du premier film.
Non, mais à l'époque, il y avait des sites où c'était comme t'avais des forums où tu pouvais. Oui. Il y avait Poudlard, puis là, tu pouvais être professeur ou étudiant.
Wow. Ouais, faire des genres de RPGs.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, puis je faisais ça.
Ok, non, ça, je connaissais pas.
Ouais.
Ça, c'est genre, ça, c'est la section dark, deep and dark du fandom.
Moi, je connais. Tu sais, je joue beaucoup aux jeux vidéo, fait que ça m'étonne pas tant que ça.
Non, il y a vraiment plein de trucs weird. dans Harry Potter. Genre.
Regarde, tu me dis, demain, je te sors un jeu vidéo ce que tu joues genre le rôle de, que tu veux dans une école de sorciers puis que tu choisis ta maison, je veux dire, ça se peut que je joue, là.
Ben, c'est sûr, hey!
Puis, ouais, Marianne aussi, excluant Harry Potter, oui. Est-ce que tu as des suggestions de les jeunesses à donner, s'il y a des parents qui nous écoutent ou s'il y a des jeunes aussi? Hein?
Ben oui, achetez tous les livres des malins, ils sont vraiment bons.
Mais, je pense qu'on le voit là déjà, moi je peux confirmer que je pense qu'il y a quand même un succès clair, là, visible.
Ouais, ben puis j'oserais dire que, non mais nos livres sont bons, puis toute l'équipe est en arrière des livres qu'on publie, ouais. Dans le sens que, si on met quelque chose sur le marché, c'est parce qu'on l'aime, c'est parce qu'on a bûché dessus, c'est parce qu'on est, prête à mettre le temps, l'énergie puis l'argent pour que les gens aient ces livres entre les mains parce qu'on y croit réellement.
Ah, mais j'ai juste peut-être faire une... T'sais, en tout cas, parce que ça m'étonne encore, je me suis promené dans le salon du livre pendant que je faisais les réseaux sociaux, puis à un moment donné, je voulais faire un post comme les meilleurs livres jeunesse, là. Puis je pensais faire ça en 30 minutes, puis j'ai quasiment été comme... 1h30, 2h à me perdre, puis à lire les livres, puis à faire comme... tu sais, comme je capotais, là. C'était vraiment... Il y a vraiment des bons livres au Québec.
Il y avait vraiment beaucoup d'enfants aussi. Je veux dire, il y avait beaucoup de familles dans la section jeunesse. C'est là que c'était le plus rempli, là.
Ah, mais c'est fou,
j'étais allée dimanche.
Ben oui, dimanche, ça a été une de nos...
Mais c'est fun à voir. Je me promenais là-dedans, puis il y avait des auteurs qui avaient des marionnettes. Ils embarquent vraiment là-dedans.
Oui, mais tu sais, puis c'est... C'est le fun pour un auteur de se mettre le nez là-dedans aussi. Puis c'est le fun pour nous parce que, et auteur, éditeur, je pense, on passe beaucoup de temps tout seul devant nos ordis, tu sais. Puis là, ben quand les salons du livre... Les salons du livre arrivent...
Tu pognes la grippe.
C'est ça. tu peux enfin voir, Colin, c'est qui le public pour qui tu travailles, ben oui. Parce qu'on oublie qu'il y a quand même... C'est qui le monde qui vont aller dépenser 13$, 15$, 20$, 30$, 40$ pour le livre que tu as produit, mm-hmm. T'sais. Fait que je pense que ça fait vraiment du bien à tout le monde d'avoir cette occasion-là d'aller à la rencontre du public.
Une chose, je me rappelle une chose que tu m'avais dit qui m'avait vraiment marqué, c'était que une des différences des malins comparées à d'autres, peut-être maisons d'édition, c'est que il y a vous, si vous marchez sur la qualité,
ouais.
Vous n'allez pas nécessairement marcher sur le blockbuster.
Exactement.
C'est ça va être une valeur ajoutée qui est en contenu. Ça va être un objet presque d'art.
Ben oui, parce que non seulement c'est important pour nous de faire quelque chose dont le contenu est qualitatif, puis tu sais, on est quand même deux directrices littéraires / éditrices à travailler à temps plein. Il n'y a pas énormément de maisons comptant 12 employés qui peuvent se...
C'est une grosse maison comparée à d'autres?
Pas tant que ça, okay. Non, là, vraiment pas. Puis justement, le fait qu'on soit deux éditrices, ouais, sur 12 employés, c'est quand même très gros. Là. Je pense, okay, que juste ça, c'est une preuve qu'on va mettre beaucoup d'énergie sur la qualité, okay, de nos textes. Puis aussi, oui,
t'as une question. Je m'excuse, j'avais une question. J'ai levé la main. tu dis que vous êtes deux.
Ouais.
Toi, t'as combien d'auteurs? Il y a combien d'auteurs dont tu t'occupes?
Dont je m'occupe... Hey, attends une minute, là. Parce que il y en a qu'on se partage un peu. Moi, je dois avoir au moins 5-6 auteurs avec qui je travaille.
OK.
Puis ma collègue et boss en a même plus là, que moi. Mm-hmm. Puis voilà, c'était la réponse, merci, à ta question. L'autre question, oui, c'était quoi déjà là? C'était, oui, la qualité. Oui, puis aussi, c'est très important pour nous d'avoir une facture visuelle qui est, ouais, intéressante, qui est unique. Notre département graphique, Shirley, if you're out there,
on l'a salué,
est comme vraiment incroyable. Puis, tu sais, on peut gosser longtemps là, sur nos couvertures pour être sûr d'avoir quelque chose qui nous plaît. Puis on va mettre, tu sais, ça, le temps, l'énergie, puis l'argent qu'il faut pour avoir un produit duquel on est satisfait. Puis c'est ça l'affaire, c'est qu'il faut qu'on soit satisfait à l'interne avant de décider de le mettre sur le marché. T'sais, on veut pas mettre en vente des affaires qui vont être faites à moitié.
Ouais, tu peux pas faire « Ah, c'est correct, là. »
Ben c'est ça, puis tu sais, je lance ça demain, mais tu sais, je suis convaincue qu'il y en a qui font ça.
Mm-hmm.
Mais nous, on se refuse catégoriquement à... Non, tu sais, c'est important que le look et le contenu soient de qualité.
Ouais.
Mais meilleur que la moyenne.
Ouais, c'est ça. Puis aussi, on s'entend, en tout cas, moi, toutes les personnes que je connais qui ont des livres pour leurs enfants, ils ont toutes les mêmes. Tu comprends? Dans le sens, ouais, que si tu rentres dans une place puis que ton livre est bon, il va être dans toutes les places.
Ben oui, puis ce qui est le fun, c'est que maintenant, avec le temps, le nom de notre maison d'édition est devenu comme un gage de qualité, là, puis c'est génial de voir ça, dans le sens que les gens vont rechercher pas nécessairement une série ou un auteur, il y a certains lecteurs qui veulent des livres des malins. Mm-hmm. C'est cool pour les employés de l'ombre qu'on est, où on se dit, ben notre travail, quelque part, est reconnu, parce que si tous nos livres sont bons,
c'est bon,
parce que c'est toute la même team, ouais. C'est toute la même team qui travaille dessus. Ouais. Fait que ça nous fait toujours une petite fleur.
Merci beaucoup, Marianne.
Ça fait plaisir.
Okay. En passant, Marianne, aussi, oui. Comme gêne-toi pas pour intervenir à tout moment pendant l'émission.
Si t'es pas d'accord avec quelque chose, crie, je vais mettre mon point sur la table. Bon.
Tu auras un allié, Laurence, enfin.
Gabriel.
Oui, Anthony.
Ouais, tu veux nous donner des conseils pour les parents qui nous écoutent?
J'ai beaucoup de conseils. En fait, je les juge, en fait.
T'es juge?
Oh. Ouais, je juge pas toutes, là, mais une bonne gang.
Tu prends pas pour un 7-up flat?
Je juge, je vais t'expliquer. Je juge les parents qui amènent leur enfant à l'épicerie, puis qui leur mettent le téléphone dans les mains, puis qui laissent rouler YouTube là-dessus. Je juge les parents qui laissent leurs enfants jouer à n'importe quel jeu sur leur téléphone, n'importe quelle application à la maison pendant des heures. Je juge aussi les parents qui achètent Fortnite à leurs enfants, qui l'achètent parce que c'est un jeu gratuit, mais il y a des gens qui l'achètent.
Oui, mais après, ils peuvent danser le floss, par contre.
Ben, ouais. Mais ça, c'est comme en même temps, on pourra y revenir, mais il y a un côté social à Fortnite qu'il n'y aura pas ailleurs. Là. Fait que pour ça, je suis comme pauvre. Là, mais...
Est-ce que tu juges les parents qui donnent un livre à leur enfant?
Ça, non. Puis on en a parlé, je pense. Puis il y a de la. Y a de la...
Les enfants. En fait,
ma préoccupation, c'est la qualité des contenus, OK? Puis les livres au Québec, on s'en sort vraiment bien. Donc acheter des livres, déjà en partant, c'est une bonne affaire. Les malins, hein, aussi.
Ah oui, il paraît que c'est vraiment bon.
Message subliminal, c'est ça.
Mais
très malin comme message subliminal. Uh-huh.
Mais ouais, c'est ça. Impliquez-vous dans le choix de contenu de vos enfants, s'il vous plaît. Je sais que c'est quatre choses d'élever les enfants. Ça prend de l'énergie, ça prend du temps. Mais un téléphone, YouTube, c'est pas une gardienne numérique, là. Parce que...
Ça les calme tellement, là.
Ça les calme, mais mon Dieu.
Mais il y a une plateforme YouTube Kids, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu parles de celle-là ou tu parles aussi de YouTube.com?
Non, je pointe foncièrement du doigt YouTube Kids, qui est, à mon avis, un déchet. C'est néanmoins. Ils pourquoi? Volent. Là, vous dites, d'après vous, pourquoi que je pense ça?
Ben, vas-y,
à cause
pourquoi?
De la monétisation, OK? Là, je vous explique. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu quelques péripéties dans l'historique de YouTube qui a fait que les créateurs de contenu devaient de plus en plus faire attention au contenu qu'ils créaient. Ceux qui sont le plus à risque, c'est les créateurs ordinaires. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'il y en a qui étaient tannés d'être démonétisés, que leurs vidéos soient démonétisées. Parce que la monétisation se fait via la publicité. Puis la publicité, la seule place qu'elle se pose pas de questions puis qu'elle en met, c'est dans YouTube Kids.
Ah ouais?
Parce qu'ils font comme, si c'est correct pour les enfants, c'est correct pour tout le monde. Fait qu'ils mettent toutes les pubs.
Marianne, est-ce que vous, dans les livres Les Malins, est-ce que vous avez, mettons, cette page est commanditée par Subway?
C'est ça l'affaire.
Non. La seule pub qu'on fait, c'est la pub pour nous-mêmes. Okay. Mais that's it.
Donc, déjà, avant même qu'on parle de la qualité des contenus, il y a déjà un problème avec le nombre de pubs que sûrement ces enfants-là vont avoir à voir, autant dans les contenus YouTube que dans les applications gratuites. Mais je vais y venir. J'ai mon but à faire ces applications aussi. Là. Saviez-vous, en fait, en parlant du contenu là, des vidéos, les plus grosses chaînes YouTube là, qui attirent des centaines de millions de views, des milliards des fois, c'est tout le temps ça. C'est tout le temps des vidéos louches un peu dans le
programme. Vraiment louches.
Toi, t'en as-tu vu, t'en connais-tu? T'en as-tu tombé là-dessus?
J'ai déjà tombé là-dessus. Ben, je pense que je sais de quoi tu parles.
Il y en a plusieurs.
C'est genre des enfants qui jouent avec leur bonhomme, ça peut être des poupées, n'importe quoi, des personnages.
Souvent, t'as des bruits.
C'est comme si c'est eux qui faisaient homemade.
T'as des bruits de pète.
Leurs personnages se battent.
C'est comme un sketch des
ils font parler leurs personnages. C'est vraiment. Puis ils ont tellement de vues.
C'est pas écrit. Souvent, ça va pas. C'est pas des sketchs qui vont être écrits. Ça va être.
Vraiment comme si tu mets un enfant qui jouait.
Ce que je vois beaucoup aussi, c'est des modes de GTA.
Ah, ben là,
comme c'est... de GTA, mais que le personnage, c'est Spider-Man, puis qu'il s'en va dans une...
Dès que t'as Spider-Man ou Elsa, là, tu tombes dans les centaines de millions de views. Là.
Oui.
On est dans YouTube Kids encore, là.
Ah, ouais, mais c'est parce que ce qui est dans YouTube Kids, c'est dans le YouTube ordinaire aussi. C'est dans les deux.
OK.
C'est juste accessible de partout, en fait.
Okay. C'est juste que YouTube Kids.
C'est juste
filtre.
Que. Ouais. Okay. Parce qu'ils font, dans le fond, les créateurs de contenu pour être monétisés, ils vont aller faire ça, mais ils se donneront pas la peine de créer du contenu. Ils vont improviser de la chenoute, là, littéralement. Il y a même certains channels qui vont auto-générer en 3D des clips vidéo qui font aucun sens, pour vrai. Ça fait aucun sens.
C'est vraiment psychédélique ce qu'il y a là-dessus. Là.
Puis c'est juste. Ça va tout le temps être les mêmes vidéos, genre mettons qu'il y a un autobus qui passe en 3D, puis là il y a une chanson. Ça va être la même affaire genre 6000 fois sur le channel. Fait que c'est la même vidéo 6000 fois, mais c'est juste les personnages pas les mêmes.
C'est comme les sketchs des appendices, mais weird.
Ouais. Genre, c'est comme pas drôle.
Mario la marionnette.
Ça fait des vidéos d'hypnose.
C'est déjà weird en partant, fait qu'imagine.
C'est... Ben pour vrai, si t'as peur de Mario de la marionnette, t'auras bien plus peur en regardant ça.
Oh mon dieu.
Puis ce que je vois souvent, même, je me promène à l'épicerie, puis je le vois que... C'est ça que les enfants dans le panier ils écoutent là.
Aïe aïe.
Puis tu sais, ton épicerie a duré une demi-heure, check ça pendant une demi-heure, je sais pas à quel point c'est bon là. Bref, en tout cas, moi j'ai des chaînes déjà à vous conseiller de YouTube. Parce qu'il y en existe, hein, des chaînes.
Des bonnes chaînes, là, c'est pas ironique, là.
Non, non, c'est, pour vrai, c'est pas ironique ce que okay. Je veux dire. Là. Je veux dire, je vais vous en conseiller tout de suite. Il y en a une que j'ai découverte récemment, ça s'appelle L'Histoire. L'Histoire nous le dira. C'est fait par Laurent Turcot. C'est un prof d'histoire.
Ah oui, oui, oui. Ben, il fait les chroniques historiques à Radio-Canada. C'est ça?
Ah ouais, ça
aujourd'hui,
ouais,
l'histoire, on
aujourd'hui, aujourd'hui, l'histoire, puis il y a comme la minute historique. Oui. C'est comme un petit 5 minutes en deux émissions.
Je savais même
sujet.
Pas.
Ouais.
Ben, regarde. Fait que ça c'est la qualité
déjà.
De contenu. Sinon, il y a le jeu C'est sérieux si votre enfant trippe un peu ses jeux vidéo. C'est super accessible. Pour les adultes, des fois, il va y avoir justement des références qui vont être drôles pour eux, mais ça reste accessible pour les enfants. Sinon, s'ils sont un petit peu plus vieux, il y a des channels comme Élie Pilon qui va prendre, il va dire comme pourquoi qu'il aime les céréales, mettons, puis c'est juste, ça devient absurde, puis c'est bien fait, puis c'est drôle.
Moi, si j'avais, ben, quand je vais avoir un enfant, je pense que j'aimerais ça, juste faire le test, il montrer des vieux extraits des Débrouillards.
Mais c'est correct aussi, parce
c'est
que...
C'est bon, c'est la bonne qualité de qualité.
Ce que
tu es
en train de me dire, c'est que tu t'impliques dans le contenu qu'ils consomment, tu comprends?
Ben oui.
Déjà, c'est correct. T'sais.
Il était cool, Grégory Charles.
Mais c'est ce qui arrive, c'est que les gens ne regardent plus.
Le
fun,
le défi!
OK.
Saviez-vous que ça, il y a une chaîne au Québec qui a rapporté à peu près... Ils estiment qu'ils ont eu 10 millions de dollars en revenus
wow.
En faisant ce que je vous ai expliqué sur YouTube.
Ah ouais?
Ouais, c'était dans le coin de la ville de Québec. C'est un rédacteur au journal de Montréal, le sac de chips,
oh.
Qui ont fait leur enquête puis qui ont découvert cette histoire-là. Là. Ça s'appelait Toy Monster. Je pense qu'il reste encore des trucs sur Internet, mais ça ne doit plus être monétisé parce que je pense qu'il y a eu des recours contre eux. Puis, tout. Puis tu dis donc, qu'est-ce qu'ils mettent dans leur vidéo? Mais tu sais, c'était genre. C'était comme Spider-Man dehors en hiver qui pète. Genre. Genre faire dans le même. Je
wow.
Dis, c'est vraiment en poche.
Mais attends, ça, c'est quelqu'un du Journal de Montréal qui avait ça pour un test, là. C'était voulu que ce soit...
Non, non, il y avait comme... Parce que, mettons, moi-même, je suis un peu geek, internaute, puis
un peu, ouais.
Je connais cette culture-là du web, puis je crois que, en fait, ça a fait jaser un peu aux États-Unis, ces histoires-là, là, plus qu'ici, là. Fait que,
ouais,
c'est juste qu'eux, en regardant en blague, ils ont vu des référents qui étaient du Québec, puis là, ils ont fait « Ah, OK, on en a un qui est ici », puis là,
okay.
Ils ont fait leur enquête.
Fait que ça n'a pas rapport, c'est pas le Journal de Montréal qui a fait ça, là. C'est pas quelqu'un du journal qui a fait cette chaîne-là.
Ah non, non, c'est pas eux qui ont
non,
fait la
ça.
Chaîne,
okay.
C'est eux qui ont fait l'enquête.
Je voulais pas partir d'autres rumeurs, tu sais, j'ai déjà le fondateur du Kimball.
C'est une enquête sérieuse, faite par le sac de chips, quand même, faut le dire.
Les vidéos et des combats de chiens, là, Laurence.
Fait que c'est
ça. Faut expliquer notre invité, c'était un running gag.
D'accord,
mais...
j'étais comme.
C'est
bien
louche,
mais je disais rien.
faut se rendre compte parfois qu'on a des invités que si on fait des running gags, faut dire que ce soit le plus louche possible.
Oui. Mais c'est ça. Mais regarde, pour vrai, si vous n'avez pas le temps de regarder ce que vos enfants écoutent sur Internet, c'est plate à dire, mais payez-vous Netflix, puis payez-vous Netflix Kids. Je le sais qu'il y a du contenu en anglais, mais il y en a en français aussi, puis ça va toujours être mieux pareil. Il va toujours avoir un filtre
ouais.
Pareil de qualité de contenu. Là.
Mais est-ce qu'il y a des applications aussi que tu peux conseiller?
Des applications
mais c'est
en général ou pour des jeux, genre?
Des applications vidéo pour des divertissements
je veux
pour
dire,
les gens?
On... écouter les bons postes de télé ou donnez juste pas YouTube.
Sachez ce
c'est
que
juste
vous...
ça, ouais, surtout.
Ouais. Sachez ce que vous montrez à vos enfants.
Avec ça, ça
moi, j'aurais une application.
Ah oui?
Ouais, ça s'appelle la boîte à pitons.
Ah ouais?
Puis c'est une maison d'édition qui fait de l'édition augmentée. Fait qu'en fait, à la base, c'est un livre, mais c'est un livre enrichi. Fait que
ben
c'est
déjà,
très interactif, il y a plein d'activités, il y a des jeux. Fait que tu sais, peut-être de nos jours dans une société où les gens sont plus portés à mettre leurs enfants devant la facilité plutôt que leur mettre un livre dans les mains, ben je trouve que c'est peut-être un bel entre-deux.
Ouais.
Puis y a-tu une limite d'âge? Y a-tu mettons, de tel âge à tel âge? Ou
je le sais pas.
Regarde, Anthony,
ils
c'est sûr.
Tel âge, mais je pense que c'est genre l'équivalent des albums, là, genre.
OK.
Ouais. C'est sûr, ça bat que j'ai vu sur YouTube. Là,
ouais, ouais,
oh, non,
ouais,
non,
c'est même.
Franchement,
j'ai
c'est
vu,
mauvais,
je vais pas te faire peur, mais j'ai vu un channel qui fait juste piquer des bébés en plastique avec une seringue.
Ah!
Genre.
On est loin de ça avec la boîte.
Mais j'en reviens pas
non, mais quand
pas
c'est, non, mais quand c'est fait
Québec.
Avec le respect, tu sais.
C'est ça. C'est fait, il a demandé. Là. Mais OK, mais là, j'aurais passé rapidement aussi les applications. Là. Regarde, parce que c'est drôle, il y a comme une culture qui fait que si une application est plus que 99 sous, on va pas l'acheter ou on va être vraiment choqué si on l'achète parce que c'est ben trop cher et tout. Mais ce qui arrive, c'est que souvent le prix justifie la qualité. T'sais. Puis quand c'est gratuit, il n'y a rien de gratuit, on va se le dire.
Mais, oui. Mais les c'est ça, les vidéos un peu trash dont tu parlais, ben c'est avec la publicité, donc ils
Mais
font
oui.
l'argent comme ça, donc c'est gratuit.
C'est gratuit, tu
mais
laisses ça à ton enfant.
Il y a un
mais...
retour sur investissement quand même.
Il y a des,
ça coûte rien faire ça.
Il y a du monde pas fin qui. Font vraiment de l'argent. Là, moi, je me souviens d'un channel qui était comme, comment on dit ça, démasqué, qu'on a vu dans leur compte Instagram qu'il y avait genre deux Lamborghini et tout, qui avaient pu s'acheter ça juste en faisant du n'importe quoi pour enfants sur YouTube. Là.
Mais tu sais, tu dis.
Avec zéro budget, là, on s'entend.
Ben oui.
Ben non, c'est ça.
Mais tu sais, tu dis, dès que c'est pas gratuit, les gens ont de la misère à payer, mais tu sais, c'est plate, mais dans le domaine culturel en général, c'est souvent comme ça. Puis en littérature, on le voit aussi dans le sens que.
Ben, on a perdu cette habitude-là
ouais.
d'acheter. C'est juste ça, tout court. Là, parce que
absolument. La culture de la gratuité.
Ça n'existe pas, la gratuité.
Beaucoup t'sais. De choses dans le culturel. Puis nous, on le sait aussi, c'est constamment un combat. Puis des discussions
oui.
qu'on a à l'interne sur quel prix on va mettre sur nos livres parce que. Quel prix le public est prêt à payer. Puis malheureusement, souvent, ben, on se rend compte que c'est... La réponse,
ouais.
c'est ils sont prêts à payer de moins en moins.
De
puis un moment donné, tu n'as pas le choix si tu veux rentabiliser. Mettons que tu fais un projet super, bien développé, très illustré. Bon,
ouais.
tu sais, je prends le pendant littérature de tout ça. Mais ben, un moment donné, c'est... ça se paye pas tout seul, ça. Puis
non,
si on
non.
veut continuer de pouvoir produire de la qualité, ben faut qu'on ait une espèce de retour sur investissement pour ensuite
c'est
pouvoir
sûr, mais
réinvestir
cet argent-là. C'est vrai pour...
C'est vraiment tough, là, ouais.
C'est vrai pour tout aussi, là. Puis en tout cas, par exemple, pour les jeux, tous les jeux qui sont gratuits, si vous allez voir le top des palmarès sur votre téléphone, dans votre magasin d'applications, le top va toujours être des jeux gratuits. Par contre, la plupart de ces jeux-là, en tout cas, pour moi, ça fait longtemps que c'est plus un secret, mais il faut que vous sachiez qu'il y a littéralement des gens qui travaillent en neurosciences qui vont être là. En fait, tout ce que vous faites dans ces jeux-là, tout où ce que vous touchez, les actions que vous posez, c'est tout enregistré dans du big data. C'est même auto-géré, auto-analysé, puis ils vont sortir de ça des patterns pour que tu veuilles acheter des choses dans le jeu. Mais c'est comme, ça va, littéralement, il y a eu des études qui comparaient ça à de la cocaïne.
Oh!
Pas juste comme le troisième lien à Québec, là. Ça fait ça, je me dis, si ça fait ça sur des adultes, ça doit pas être excellent de faire ça. Pour des enfants, vous êtes, honnêtement, allez payer 5, 10, 15 piastres pour une application, un vrai jeu, sur son téléphone qu'il va réutiliser, mais qui va être de qualité. Y en a un que je peux vous donner comme exemple, moi... Un de mes meilleurs jeux que j'ai joué, c'était Rayman sur téléphone.
Ah ouais.
Il était vraiment bien fait, qualité artistique super bonne. Si le but est juste de le divertir, allez-y avec ça, ça va coûter comme 2 piastres. Là. Mais je sais pas si tu avais d'autres conseils, Lo.
J'ai pas de conseils. Je me demandais juste si Solitaire, c'était le genre de ouais. jeu que...
Solitaire, non.
Okay.
Peut-être pas pour les
enfants. Encore.
Je pense que les jeunes, ils vont se désintéresser assez vite.
Ou développer une envie de gambler.
Ben, j'avais le goût de m'acheter un kit de cartes en or.
Oh.
Mais sinon, pour ce qui est des jeux consoles aussi, tantôt je n'ai parlé Fortnite un peu. Là, ce qui est ça qui est drôle, c'est que c'est un jeu gratuit, mais tu peux l'acheter physique qui est 30$, ok? Là, parce qu'on entend beaucoup parler, les enfants ils jouent beaucoup. Si vous allez voir sur Amazon en ce moment, Noël approche. Fait que tous les parents l'ont acheté. Fait qu'il est comme out of stock. Fait que si tu veux une copie en ce moment, elle est 250$.
Mon Dieu.
Mais c'est parce que là, le...
c'est comme la course.
Vous avez pas regardé c'est quoi là. Tu sais, c'est ça, je dis. Faut regarder c'est quoi le contenu, c'est quoi Fortnite avant de l'acheter. Là.
Oui.
Parce que first, il est gratuit, ok? Achetez pas ça. Puis deuxièmement, regardez aussi votre enfant, comment il réagit à ça quand tu y enlèves, tu sais, ses réactions. Moi, c'est un papa sur le podcast Rétro Nouveau qui parlait de ça, que lui-même gamer, il a dû enlever Fortnite à son enfant. Là. Parce qu'il y avait des excès de colère, puis quand il enlevait, puis là, il a fait « Ok, ça, c'est un problème. » Mais tantôt, je vous parlais des patterns qui faisaient que c'était comme de la cocaïne. Ben, c'est ça que ça crée aussi chez les jeunes. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Fait que vous êtes mieux de mettre le prix. Puis si, dans le doute, là, allez voir Nintendo.
Ah, ben oui.
C'est ça ma conclusion. Dans le doute, Nintendo, OK?
T'es-tu commandité?
Même pas. C'est juste que c'est de la qualité, là.
Mais merci beaucoup, Gabriel.
Ça fait plaisir.
Puis Félix, je suis curieux, de quoi tu vas te parler là aujourd'hui?
Ben, aujourd'hui, je vais vous parler de Nadia Comaneci, la seule et l'unique, puisqu'elle n'avait que 14 ans lorsqu'elle a gagné 3 médailles d'or dans les épreuves de gymnastique aux Jeux olympiques de Montréal en 1976. Mais on se rappelle surtout d'elle dans les annales olympiques comme étant la première gymnaste à avoir obtenu une note parfaite de 10 lors d'une Olympiade. En fait, c'est un exploit qu'elle a effectué à 7 reprises au forum, soit autant lors des rondes préliminaires qu'en finale. Mais c'est assez dur de résumer la vie fulgurante qu'elle a eue. En gros, elle a commencé en Roumanie, très jeune, il y a eu le succès, il y a eu les moins bons moments, il y a eu la fuite de la Roumanie. Et c'est son école maintenant, mais on va essayer de se concentrer sur Montréal et la suite des choses. Mais on va parler d'abord de son enfance. Donc, au début, c'était une petite fille qui était remarquée par ses qualités athlétiques. Avant même qu'elle sache c'était quoi la gymnastique, elle grimpait dans les arbres. C'était un de ses loisirs. J'ai regardé un documentaire hier où elle disait ça. Elle était repérée dans sa classe, dans son école, par les entraîneurs Bella et Martha Carolil, qui ont demandé aux petites filles qui étaient dans la classe qui est capable de me faire une roue latérale. Il y en a eu deux, dont elle. Donc, ça a commencé comme ça. Et les deux entraîneurs étaient déjà subjugués de la force qu'elle avait déjà à ce jeune âge. Donc, au début, ils étaient certains qu'il y avait un diamant entre les mains. Et j'aimerais ça qu'on spécifie quelque chose en partant. Malgré ce qu'on peut penser des pays du rideau de fer à l'époque, le système d'entraînement n'était pas strict. Il y avait au-dessus, c'était oppressant. On était quand même c'était un pays communiste avec Ceausescu. Mais c'était pas. Elle a des beaux souvenirs de l'enfance. Là. Ça, c'est compliqué par la suite. Mais les entraîneurs, justement, dans un des documentaires produits par le mouvement olympique, un des entraîneurs parle. Donc, c'est pas, par exemple, en Allemagne de l'Est ou dans d'autres pays ou en Russie. C'est épouvantable, mais là, c'est correct, il n'y a pas eu de dopage. C'est une belle histoire pour ça. Donc...
T'es-tu sûr?
Oui.
T'étais-tu là?
Mais peut-être.
Tu prends pour qui, tu parles de ça?
Je lance des faits, là.
T'as pas vu Icarus?
Oui.
Ouais, c'est un bon film, hein. C'est
drôle, là. Non. donc, rapidement, ça le fait que Nadia Comaneci était une coqueluche dans les rangs juniors, mais surtout en Europe, on la connaissait pas nécessairement dans le monde jusqu'à se tienne la Coupe américaine en mars de Montréal en mars 76 au Madison Square Garden de New York. Elle était déjà forte avec 2 pointages de 10. Mais bon, les gens se disaient, bon, c'est une compétition avant les Olympiques, les fortes se reposaient, mais Montréal s'amenait. Puis on sait qu'elle s'est beaucoup pratiquée avec ses deux entraîneurs jour et nuit. Ça fut parfois difficile. Il y avait ses parents qui étaient là, donc comme on peut l'écouter dans l'extrait qui va jouer bientôt, qui a été enregistré lors d'un entraînement en Roumanie quelques jours avant les Jeux.
Ah!
C'était une petite blague, là. C'est,
putain, c'est quoi, ça?
C'était quoi?
Dominique Michel qu'on entend présentement.
C'est Dominique Michel?
Au Bye Bye 76, qui fait un sketch que j'adore. En fait, c'est ben sa mère, c'est Denise Filiatro, puis là, elle la met sur une poutre en disant « Tu vas faire comme la petite Nadia Comaneci avec l'entraîneur, mais elle veut pas faire la poutre, donc elle braille. » Puis c'est très drôle. Moi, je... En plus, c'est un sketch qu'ils ont fait avec... en fait, parce que j'ai regardé un Moi et l'autre, là, il y a deux semaines, un vieux Moi et l'autre, que c'est quelque chose qui traînait tout le temps les... Dominique Michel et Denise Filiatro, genre Dominique fait, Denise fait la mère, Dominique fait le petit enfant qui veut
tout
pas.
Le temps l'enfant.
Donc c'est ça. Donc ben et voilà, c'était une blague.
donc j'étais traumatisé au début. Là,
c'est ce qu'on écoute.
Non, c'était pas fort, c'est pour ça. Ouais. C'est ouais.
C'était pas fort, Félix.
Non.
C'était pas le volume. Fort,
tu l'as dit.
Bonne soirée.
Okay. Ah, tu l'as dit.
ouais, depuis qu'une autre fille.
Je fais ma place.
Tout le monde l'attendait donc de pied ferme au Forum de Montréal, là où les épreuves de gymnastique allaient se dérouler. L'illustre Forum qu'on connaît tous, là où on se rappelle qu'il y a eu des grands moments de sport, comme par exemple, Anthony, la grande victoire des Rougeaux contre la Heart Foundation à la WWE, où ils ont gagné leur premier titre par équipe. Et je pense que le Forum a... Oui, exactement. Ben oui, un extrait du match. Mais je crois aussi que le Forum a déjà accueilli quelques parties de hockey, mais ça, je suis pas sûr.
Voilà. Excuse-moi, j'ai accroché le bouton.
Le temple de la lutte. Donc, ben oui, on a une cloche ici, sur la table. Donc, Nadia, le 18 juillet 1976, lors de la deuxième journée de compétition des Jeux olympiques de Montréal, s'élance lors de sa routine sur les barres asymétriques pour l'épreuve préliminaire. Elle fait une performance incroyable. Tout le monde l'applaudit. Il n'y a pas eu une erreur, tout était parfait, bien placé. Et ensuite, sur l'écran des résultats, on voit un 1.0. 1. Donc, il y a un gros silence, personne ne comprend, tout le monde se dit « qu'est-ce qui s'est passé? » La routine était magnifique. C'est que Omega, la compagnie de l'époque qui fournissait aux Olympiques les tableaux de pointage informatisés, avait proposé à la Fédération internationale de gymnastique avant d'installer 4 cases pour afficher le pointage. Mais des gens de la Fédération ont finalement répondu que c'était pas nécessaire parce qu'un 10, ça serait impossible à atteindre.
Ok, oups. C'est con, là.
Parce que c'est plusieurs juges qui donnent une note, donc on les rassemble tous ensemble. Donc au Forum, on a vu que c'était 1.0, les gens étaient confus pendant quelques secondes, avant que l'annonceur maison confirme qu'est-ce que personne pensait qu'il allait arriver un jour dans l'histoire. C'est un 10. Donc ça a été l'euphorie, ce fut la folie Nadia en ville. Ses compétitions étaient suivies partout dans le monde lors des Jeux, on l'a invité partout, notamment au talk show Appelez-moi Lise de Lise Payette, l'extrait sur YouTube, c'est super intéressant à voir. Donc, ce n'est pas étranger au fait que la gymnastique, en passant, depuis ce temps-là, a eu un essor fulgurant au Québec, depuis 1976. Donc, si vous connaissez des Nadia qui ont environ 42 ans, c'est pas rien. Ouais. C'est pas pour rien. Donc, il y a eu en plus 6 autres 10 obtenus plus tard. On l'a acclamé la reine des Jeux avec M. Bruce Jenner.
Attends, elle a eu 6 sur 10 plus tard?
Elle a eu 7, 10 sur 10.
En 76?
Ouais.
Ou...
Okay. Oh, seulement en okay. 76, ça a été des gros jeux.
Mon Dieu.
Ben, okay. Parce que c'est aussi dans les ronds préliminaires, c'est pas juste des finales. T'sais, préliminaires, après c'est les finales, okay. Puis par équipe.
Mais quand même, c'est pas rien.
Mais elle a pas eu la médaille d'or, notamment lors de l'épreuve par équipe. Maudit. Donc, 10 000 personnes l'attendaient à l'aéroport de Bucarest pour son retour de Montréal. Le président roumain et futur fusillé de 89, Nicolas Ceaușescu, le décoré des plus hautes distinctions roumaines.
Quel titre!
Wow.
Non, mais spoilers!
Un homme chaleureux.
Donc, après ces miracles des Jeux de 1976, on peut dire que tout le monde voulait la voir performer. Elle était scrutée par tout le monde. Et la pression ne devait pas être évidente, surtout qu'elle s'était blessée avant... les Jeux de Moscou, les Jeux suivants, donc en 79. Donc, on est en 1980 et les gens étaient difficiles envers elle. Ça devait être épouvantable. Mais, malgré tout, elle a gagné 2 médailles d'or. Mais dans les titres, c'était « Jeux ordinaires pour Nadia ». C'était épouvantable.
Et moi, j'ai commencé à écouter du e-sports, puis ça ressemble vraiment à les histoires des champions. Là.
C'est-à-dire?
Quand il y en a un qui est trop bon, il commence à gagner. Là. S'il n'est pas parfait, le monde est comme « bouge ».
Tu as gagné 2 médailles d'or seulement. T'as c'est forcé. Mais il y a eu notamment une vilaine chute lors de l'épreuve des barres asymétriques, son épreuve fétiche. qu'elle avait eu son premier 10 d'ailleurs à Montréal. Et donc, il y a eu des reprises de ça à la télévision. Il y a vraiment eu quelque chose autour d'elle qui n'était pas tellement bien. Et surtout, il y a plusieurs articles qui faisaient référence à la nouvelle Nadia. Tu sais, celle de 18 ans qui ressemble de plus en plus à une femme. Tu sais, des articles qu'on n'écrirait jamais pour un homme. Ben, c'est ça. Reste que Nadia était encore une grande vedette, donc on lui a fait participer à une tournée aux États-Unis nommée Nadia 81. Le tour était très couru, sauf que lors de la dernière journée, ses entraîneurs de toujours, Bella et Martha Carolil, qui l'ont repéré, ont, comme on dit dans le langage de Lancé Compte, passé à l'ouest. Go! Ouais, c'est un running gag, Lancé Compte. Okay, c'est une de mes passions.
Oui, je sais.
Toi, c'est Harry Potter.
On devrait avoir la musique d'Harry, là. Dans...
J'aimerais ça. Vraiment, ça prend ça.
À punch un peu moins sur le coup, mais...
Donc, après ça, la surveillance a été accrue sur elle. Donc, ça le fait un peu... En plus que les autorités soviétiques pouvaient imposer leur volonté contre elle, puisqu'elle n'était plus vraiment couvée ni surveillée. Donc, elle avait pu voyager. Elle est allée au jeu de 84 à Los Angeles, mais tu sais, comme observatrice pour aider les Roumaines, mais c'était... Elle aurait pu peut-être faire des bons résultats quand même.
Mon Dieu, c'était pas pété à jambe, là. Je veux dire, il y avait de quoi à faire pareil, là.
C'était... Non, c'était vraiment pas des bonnes années pour elle, mais elle pouvait même plus voyager. Donc, elle était vraiment devenue comme n'importe qui, malgré qu'elle avait gagné elle a fait des exploits incroyables dans la rue. C'était comme... C'était pur. C'était une personne comme une autre. Elle a perdu
dans ce temps-là, il n'y avait pas des agences de PR encore.
Non, maudit, non. Donc, elle a été bien timée aussi pour sa fuite, puisqu'elle s'est sauvée en 1989, quelques jours avant que la révolution commence. Ça a bien tombé pour elle. Donc, elle s'est rendue aux États-Unis et elle a vécu un peu après à Montréal. Elle a vécu pas loin, même sur la rue Beaubien.
Ah ouais?
Ouais, avec une famille de Roumains. C'est pas mal là qu'elle a fait... c'est découverte une vie. Tu sais, elle a découvert l'Occident. Et maintenant, une chose qui est vraiment jolie, qui est cute, c'est que son mari, c'est Bart Connor. C'était un ancien gymnaste. Il se croisait plusieurs fois aux Olympiques, tout ça, mais c'était un Américain, donc il ne se parlait pas nécessairement, mais ils se sont toujours trouvés jolis, les deux. Donc, c'est cute. Puis là, soudainement, c'est ça.
Aux États-Unis maintenant?
Oui, en Oklahoma. Je me trompe pas, pas fait les recherches pour ça.
Quand même bien.
Mais oui, donc, tout est bien qui finit bien. Et finalement, j'aimerais faire une mention à la soviétique Nelly Kim, puisqu'elle a également obtenu 2 notes parfaites lors des Jeux de 76, mais ça, personne ne s'en rappelle. Imaginons que Nadia Comăneci, avant les Jeux, avait la gastro. Là. Ben, Nelly Kim aurait fait l'histoire.
Ouais, c'est vrai.
Puis les deux rivales, en plus, se sont partagés équitablement le nombre de médailles d'or, puisque Nelly Kim avait gagné aussi 3 médailles d'or à Montréal, mais une des médailles d'or, c'était en épreuve par équipe. Donc, peut-être que ça l'a moins compté dans la balance. L'équipe. Les autres ont fait le travail.
Mais c'est ça.
Fait que, vive les deuxièmes aussi!
Ouais!
T'as raison!
Merci Félix, c'était super intéressant. On passe à toi, Laurence.
Oui! Est-ce que tu veux savoir de ce dont je parle aujourd'hui?
Non, c'est ce qui t'amène l'émission d'aujourd'hui.
Ok! J'aurais pas
pu te
demander. Vous avez déjà trouvé ma remplaçante, de toute façon. On l'a à la table avec
nous. Hello!
Elle est bien plus drôle.
Je prétendrai pas à ça quand
C'était
même.
C'était son entrevue aujourd'hui.
Pour vrai, le bonheur de l'avoir autour de la table. Ah, Seigneur. Mais en tout cas, vas-y, Lance.
Oui, donc, moi aujourd'hui, je m'adresse aux auditeurs, comme Gabriel, aux auditeurs qui ont des enfants, puisque je vous fais des suggestions d'activités pour les bambins.
Ah, ben là,
Bambino!
Ah, oui! Donc, fini le bricolage, la marelle, le ballon coup de poing. Je vous parle d'activités hip qui conviennent aux enfants de notre millénaire. Qu'est-ce qu'il y a, Félix?
Ben, c'est drôle la manière que tu parles.
J'espère que ce que j'ai dit ne va pas comme contrecarrer ce que tu vas dire.
Non, je pense pas. Okay.
Les installer devant YouTube pendant
ouais,
une
c'est
demi-heure.
Ça.
J'en avais une, en fait, c'était ça. Non, mais de toute façon, même si je vous proposais de jouer au Monopoly avec vos kids, ils vous ridiculiseraient sûrement sur leurs réseaux sociaux respectifs en se plaignant de leurs lames parents dans leur story Instagram avec des filtres de larmes.
J'ai une parenthèse peut-être rapidement là-dessus. Avez-vous vu sur Internet, il y a eu un petit buzz là-dessus, le Monopoly pour Millennial?
Ben non.
Non.
C'est un jeu officiel fait par Hasbro. Oh. Puis je pense que, tu sais, il y a une phrase en dessous du Monopoly, là, sa boîte, puis c'était écrit... Ils pensaient même pas à ça, vous avez pas l'argent pour.
Mais cas, c'est quoi en quoi qu'ils investissent dans des bars?
Ils investissent pas, tu fais juste emprunter, puis c'est le premier. En fait, c'est le premier qui s'en. En fait, c'est lui. C'est, tout le monde finit par s'endetter dans le fond dans le jeu. Oh.
Le premier qui est en faillite.
C'est celui qui est le moins endetté puis qui a le plus de likes dans ses réseaux sociaux.
Oh my
c'est,
god.
C'est ça pour vrai.
On peut l'acheter, c'est vraiment.
C'est un vrai jeu de Monopoly.
À rajouter sur toutes les listes de cadeaux de Noël.
Ben oui. Ben oui. Mais ça... T'as dit qu'il fallait investir pour avoir de la qualité.
La caisse. Caisse commune, c'est like commune, commun?
Ben ouais, je sais que dans le fond, faut que t'aies de la notoriété, mais l'argent, c'est pas vraiment important. Là. C'est genre, tout le monde est endetté.
La prison, c'est quoi? C'est comme pas de Wi-Fi?
C'est genre ça, là. Ouais. C'est genre, wow. Au lieu d'être des hôtels, c'est genre des restos vegan. Puis...
Bon, vous avez fait le tour, là?
Ouais. On avait le tour.
Puis, okay. puis la promenade, c'est Jersey Shore.
Oh. Ça se peut, vous pourrez regarder.
On continue.
Vas-y, Lance.
Oui. Donc, je disais justement à Gabriel que j'allais pas vous proposer de jouer à Monopoly.
Non, t'as dit que t'allais être hip?
Oui. Non, des activités hip. Moi, j'ai pas le...
T'as pas ce statut.
Non, je me confère pas ce statut, c'est ça. Mais les activités vont l'être, j'espère. Ce que je vous propose, c'est des activités dignes d'être les thématiques principales des prochains vlogs de vos enfants. Chobay et Maverdé, vos enfants vont être plus meilleurs qu'elle.
Plus meilleurs?
Oui, mais les enfants, ils parlent comme ça. Hein.
Ah, c'est vrai.
Je sens que vous pouvez plus, monsieur, mesdames, autour de la table. Donc, je cesse tout de suite de vous faire languir. Je vous propose tout de suite ma première activité, qui est Kidzania. Avez-vous déjà entendu parler de ça?
Non.
Ben moi, j'ai entendu Hulkamania.
Ah, ouais!
C'est-tu un Kogan?
Attends, j'aimerais ça qu'on répète l'extrait.
De quoi? Quel extrait? Ça?
Non, j'ai pas dit... Non, j'ai pas... J'ai dit Kidzania. Excusez.
Kidzania.
C'est ça.
OK. Ah. C'est que ça consiste en quoi?
Ben, si vous souhaitez faire une sortie qui fera de votre enfant une personne responsable et moins nono, j'ai la solution pour vous. Amenez-le là-bas parce que Kidzania, c'est un lieu.
Un lieu?
Oui. C'est un parc d'attractions qui ne comporte ni montagne russe ni machine à toutou. En fait, c'est un lieu où les tout-petits peuvent se trouver de la job parmi une soixantaine de choix de métiers.
Ah!
Quoi tu parles?
C'est vrai, oui, ça existe.
OK, non, mais OK.
Mais c'est où, ça?
En fait, il y en a un à Londres, il y en a beaucoup. J'ai regardé sur le site internet.
Il y en a plusieurs.
Ça a vraiment...
C'est wow,
ça a explosé il y a comme 2 ans, là. Mais il y en a en Asie, il y en a surtout en Europe, non. Asie.
Mais oui, j'ai déjà vu ça, je pense que c'est... Ben, tu sais, les enfants peuvent découvrir des métiers... Ben, tu sais, c'est pas des grosses manœuvres, ils vont pas fabriquer des pneus, mais ils vont juste apprendre de manière...
Parce que Gab l'a fait pendant un été de temps. Il souhaite sa personne, je pense.
Il y avait 5 ans.
Je le souhaite pas aux enfants,
c'est
non.
Ça, c'est des références de Joliette. Mais non, mais qui font des petites tâches simples, donc ça, si je me trompe pas, c'est ça. C'est pour... c'est pas nécessairement, ils vont pas sur jaboom.com puis trouver...
Ça teste le...
Non. En fait, c'est ça. Kidzania... C'est une place où les enfants peuvent se trouver des métiers pendant un certain temps, on s'entend. Là. Ils signent pas des contrats avec des contrats à vie avec des assurances. Mais il y en a un peu partout dans le monde. Actuellement, il n'y en a pas encore au Canada ni aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Mais je sais qu'ils vont en ouvrir un dans la prochaine année à Toronto. Mm. Donc, c'est pas si loin. Il va en avoir 3 aux États-Unis, 1 au Mexique. Mais il y en a vraiment, je pense qu'il y en a environ 10 ailleurs
comme,
dans le monde.
Un peu mitigé. Je suis comme, est-ce qu'ils ont besoin d'être pensés à être productifs déjà, tu sais, je sais pas.
Ben, c'est ça
peut-être,
la chose.
Là, je sais pas.
Et comme métier, on y retrouve par exemple chirurgien, barman, call girl. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non. Non, vos enfants ont la chance de choisir de travailler comme commis chez H&M, et ça, c'est pas une blague.
Agent
de bord, livreur, pompier, technicien pour la compagnie de voitures Renault, et j'en passe.
Fait que c'est sponsorisé.
C'est sponsorisé de tout bord, tout côté. Ben, comme je disais, d'un côté, il y a des gens qui revendiquent ça, puis il y a des gens qui trouvent ça tout à fait normal, parce que dans la société, de toute façon, il y a des compagnies partout. Donc, les enfants sont confrontés à ça, puis c'est normal. Fait que pourquoi les
c'est ça qu'HM a dû dire quand ils ont mis de l'argent dans le projet.
C'est ça. Non, mais il y a... OK, ça va. Excusez, il y a un problème.
Non, c'est correct.
Ajustement de micro, c'est correct. Donc, pour faire les bons choix, le bambino doit se fier sur ses intérêts, mais est invité à consulter les salaires offerts à chaque endroit pour s'assurer que ça convienne à ses attentes.
Fait
que s'il veut s'acheter une Porsche...
Hey, c'est poussé,
Il sera payé s'il y a un poste à Kidzania. Donc, enfin, un endroit où les enfants peuvent travailler avant 16 ans. Ça, c'est une blague parce qu'il y en a plein qui travaillent avant 16 ans. Non, mais... Ah,
ça aurait fallu un rimshot dans les effets sonores, genre. Poutou.
Tu veux-tu le refasses?
Non, on l'a pas.
On tu t'en faire
on peut te mettre un son... OK, je pense que c'est bon.
Ouais. Correct. OK. Donc, à Kidzania, les enfants de 1 à 14 ans sont acceptés. Donc, à 1 an, ils peuvent y aller. Je pense pas qu'ils peuvent être commis au H&M à 1 an ni travailler pour Renault. Je sais vraiment
ils
pas.
Ils sont bien dans la société à 1 an.
Ils sont peut-être gardés par des enfants de 5 ans.
Mais écoute, il n'y a pas d'âge pour être bête et plier du linge. Hein?
Non, exactement. Donc, non, mais pour vrai, selon les créateurs, le parc serait une bonne façon de faire comprendre la valeur de l'argent aux enfants. Ce qui n'est pas faux. Mais bon, ça peut, aller contre des, ça peut aller contre des valeurs morales profondes. Mais les enfants, puisqu'ils doivent travailler pour s'acheter des biens comme la nourriture à l'épicerie ou d'autres enfants travaillent...
Est-ce qu'ils ont des activités, genre comme... Est-ce qu'ils ont une horaire, genre, là-dedans? Est-ce que c'est comme on travaille pendant
oui,
deux
ils ont
heures,
des horaires.
Puis après ça, on joue?
Ils ont des horaires?
Non, mais attends, je veux savoir, est-ce qu'il y a des enfants employés, des enfants assistants oui. gérants, puis...
Troisième clé.
Ouais, troisième clé, ouais. Tu sais, comme, mettons, t'as le petit kid de 2 ans, puis là, le petit kid de 4 ans, il dit, là, il va falloir qu'on se rencontre dans le bureau, là, parce que là, ça marche pas, là.
Arrête de te fouiller dans le nez, là.
On crache pas la tête.
T'as assez vieux pour arrêter. En plus, c'est ça, il y a des épiceries, les enfants peuvent dépenser leur argent dans Kidzania. Ils ont la possibilité d'aller à la banque pour s'acheter une carte de crédit.
Non,
fait
qu'ils
peuvent
non,
payer
non.
en cash ou en crédit.
Tu niaises,
je te jure. C'est comme pas vrai.
Mais ça existe, ça va exister bientôt au Canada. Donc, pourquoi prendre le temps de vivre son enfance quand on peut vivre la vie d'adulte, hein? C'est ça, mon... Mm-hmm. C'est ça, ma réflexion.
C'est un bon point.
Merci. Prochaine activité, une expérience de casting.
Ah.
Si vous désirez que votre enfant vive l'expérience de mannequin, vous pouvez l'inscrire à une agence de mannequinat. C'est super fastoche que vous vous dites. Détrompez-vous. Plusieurs parents ont le même désir que vous. Donc, il faut suivre certains conseils pour que votre bambin entre dans la next agence Jet Set. J'ai pris mes infos sur un site français.
Ça paraît, hein?
Donc, premièrement...
Donc, du coup...
Du coup, tu vois?
Du coup, tout d'abord, vous devez remplir le formulaire de soumission en ligne de l'agence et y inclure des photos de votre enfant.
Ouais.
Idéalement, 3 photos pour qu'on le voit des pieds à la tête, visage, bon, varier les poses. Puis, il ne faut pas que ce soit des photos trop professionnelles parce que c'est pas ça qu'ils cherchent. Ils veulent vraiment un enfant sans maquillage, tu sais, dans son état naturel, pas de Photoshop.
Ils veulent organique.
Un vrai, tu sais, c'est ça. Pour savoir comment 100%. Après, ils vont pouvoir le manipuler. Deuxièmement, si vous n'habitez pas près de Toronto, New York, Los Angeles ou Miami, vous devez envisager de déménager puisque les modèles doivent idéalement vivre à une distance raisonnable du siège social de l'agence. Parce que des fois, ils sont appelés 24 heures à l'avance puis il faut absolument se rendre. Donc, il faut pas habiter.
À l'avance, ça. Excusez-moi, Thomas, je peux pas aller à ta fête.
J'imagine le petit gars. Je pourrais pas faire mon devoir de mathématiques demain, madame. Je m'en vais un shooting. À
shooting.
New York.
Tu vois ce qu'Anthony, il nous fait des signes pour nous dire combien de temps il reste. Puis
on
il reste 5
fourré,
minutes.
Puis l'Anthony nous montrait sa main. Mais
je pensais
dire...
qu'Anthony voulait faire un high five à Gab pour sa blague.
Ça aurait été chiant.
Ok, je m'excuse, j'ai brisé la magie. Troisièmement, les mots de votre enfant ont su plaire aux repéreurs d'enfants modèles. Ne vous trompez pas ici. Ce n'est pas le même principe que les maisons modèles, les enfants modèles. Parce qu'il y en a.
C'est pas des enfants à Bonneville. Hein?
C'est pas des enfants à Bonneville. C'est pas des enfants que tu mets puis que les gens peuvent essayer. T'sais. Donc
c'est wrong.
Non, mais
on
si,
continue.
Tant mieux si votre enfant a plu au repéreur. C'est super top. Mais évitez de signer... Quoi, Félix?
C'est super top.
Mais évitez de signer n'importe quoi. Comme ce que vous signez dans votre vie d'adulte pour vous-même. Lisez ce que vous signez avant de le faire parce que vous pouvez avoir plusieurs mauvaises surprises. Par exemple, il y a des entreprises qui veulent de l'argent en avance. Déjà, ça, c'est un mauvais signe. Il ne faut jamais donner de l'argent avant d'avoir travaillé. Donc, si votre enfant n'a pas fait un shooting puis ils veulent de l'argent, ça ne fonctionne pas parce que faut montrer que comme la qualité des services plutôt, puis que tu es une vraie agence, dans le fond. C'est pour la première fois, il faut que l'agence montre qu'elle existe. Parce que les bonnes agences perçoivent généralement des frais seulement lorsque l'enfant a des heures de travail, pour cette raison-là.
Ben, logiquement.
Oui.
C'est ça.
Ben, c'est ça. c'est ça que je dis. Faut aussi référer les personnes qui vous contactent sur les réseaux sociaux. Parce qu'avec Instagram, Facebook, c'est encore plus facile pour des imposteurs de contacter personnellement les enfants mannequins ou n'importe qui. Donc, se faire passer pour d'autres personnes puis vouloir soutirer de l'argent en faisant croire que c'est des grosses agences, mais c'est pas le cas. Et finalement, outre le mannequinat et Kidzania, je vous propose une activité bien simple, le scrapbooking.
Mais bien plate aussi, on va se le dire.
Non.
Ce qu'on t'a pas demandé.
Oui, mais c'est une activité qui coûte pas cher, qui enseigne pas le capitalisme et la superficialité. Il y a toujours le scrapbook pour faire plaisir.
Ah, finalement, j'aime ça.
T'aimes ça, maintenant?
T'en as fait, Laurence, hein?
J'en ai fait... Ouais.
T'as scrappé des photos d'enfance avec ça, hein?
J'ai vraiment scrappé des photos, littéralement.
Ouais, hein?
J'ai jamais eu de talent... de talent manuel, non. Premièrement, non, et créatif. Fait que c'est ça.
Ouais, semi-vrai, mais je peux dire que j'ai vu les résultats, puis...
Puis c'est vrai.
Ça demandait plus d'efforts, disons.
OK.
Oh non, il y en avait, c'est ça le pire. Donc, cette activité créative est folle en possibilités. Elle vous offre la chance de passer du temps de qualité avec l'enfant tout en ressassant ses plus beaux souvenirs de jeunesse. Parce que vous devez piger dans des photos pour créer des albums. Donc, dans les souvenirs...
Il y a deux ans,
tu sais. Par contre, le hic, j'aime mieux vous avertir tout de suite, pour devenir une ou un scrapbooker, il faut faire imprimer et développer vos photos.
OK, ouais, c'est pas donc, écologique.
Non, ben c'est ça. Puis le processus consiste à prendre les photos que dans votre téléphone ou votre tablette ou votre ordinateur, puis à les rendre physiques pour les avoir dans les mains. Ça.
Mais qui fait ça?
Moi, j'attends. Il y a des places qui le font en moins d'une heure, il paraît. Je sais pas si c'est un mythe, mais bon.
Ah ouais.
Mm-hmm. Incroyable.
Mais t'es pluggeras prochaine émission, si tu veux.
C'est une prochaine.
Moi, j'ai jamais trouvé ça. Mais ceux qui ont trouvé la chose, ben ils font du scrapbook généralement, parce que sinon, il n'y a aucune utilité à avoir ça, à pouvoir tenir des photos dans nos mains. Donc, si vous êtes capable de réaliser cette étape-là, je vous conseille le scrapbooking. C'est simple. Faut coller des collants sur des photos, coller les photos sur des feuilles, et voilà, le tour est joué. Bon moment en famille, puis il n'y a personne qui peut être contre le scrapbooking.
Non, c'est vrai.
Mais tu nous as convaincus.
Oui, ça tente.
Ouais.
Là, j'espère que ça vous a inspiré, mais pour mon mot de la fin, j'aimerais vous le laisser, en fait. Je vous invite à compléter la phrase suivante, chacun votre tour autour de la table, juste vous tester un peu. Donc, la phrase est la suivante. Oubliez pas, l'important avec les enfants, c'est...
S'amuser.
Non, non, chacun votre tour. Gabriel. Ah,
de faire travailler dans une société capitaliste.
Ouais, OK.
De bien les nourrir.
Ah, c'est pas fou.
Ouais.
Des faire gagner en sport.
Faut qu'ils gagnent.
Wow! Ben, non,
c'est important.
Moi, je dirais de les exposer à de la culture de qualité.
Bon.
Bon.
Ah, bon.
Ben, il n'y avait pas de gagnant au préalable dans cet exercice, mais je pense que Marianne va être la gagnante.
Ouais, d'accord.
Finalement, il y en a une.
Chouchou.
Merci, Laurence.
Ça me fait plaisir.
Hein? Non, mais es-tu assez bonne, hein, quand même? Hein?
Elle est tellement bonne. Hein?
On n'en revient pas.
Ouais, elle est bonne.
Hein? Tu prendras des notes, Félix, la prochaine fois.
Merci, Anthony, c'est gentil.
Mais on va faire un petit tour de table maintenant. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont des choses à plugger ou des choses à...
Moi.
Ouais, vas-y, Félix.
Moi. Ben, une nouvelle dans le domaine de jeunesse et du fantastique. Il y a eu un... Dion Cheney de New York, qui a 49 ans, vient de perdre sa passe qu'il avait depuis 24 ans à Walt Disney World. Savez-vous pourquoi?
Ben non.
Non?
Puisqu'il s'est promené partout dans le parc avec une grande banderole écrite « Trump 2020 ». Donc, il voulait en faire la promotion à Walt Disney.
Donc c'est la bonne place pour, me semble.
Oui, exactement. Donc, il était dans le Magic Kingdom Park.
I don't give a damn.
Ah, ben non, mais je pense qu'il était bien content, j'imagine, lui. Mais donc, c'est
you
ça.
You are fake news. Ben,
Donald, arrête, s'il te plaît.
Il est omniprésent.
Donc, on lui a retiré sa passe. Mais...
Tu n'as pas besoin de politiser des choses pour enfants, je veux dire.
Effectivement.
C'est peut-être ça aussi.
Comme rendu là, on va commencer à les faire travailler, les enfants.
C'est
ça.
Mais il a dit qu'il était content d'avoir perdu sa passe parce que ça le fait de la publicité gratuite pour son idole. Mais c'est assez spécial. Tu sais, les photos dans, dans les manèges, que quand ça va vite, puis là, on prend une photo, genre, oh, wow. Ben, tu vois, tout le monde, les enfants vont avoir du plaisir, puis lui, juste avec sa pancarte, genre, Trump 2020.
C'est un peu drôle. C'est
une bonne idée, moi, j'aime ça.
Fait que moi, je suis content de ne pas avoir vu, par exemple, à la ronde cet été, changement pour la CAQ.
OK. Mais j'aurais ri.
Une mascotte de François Legault.
Ah, ben là, peut-être Maxime Bernier prend des notes présentement. On va arrêter,
ah, on va arrêter tout de suite.
Un nouveau jingle,
c'est pas des mauvaises idées.
Ben oui. Moi, j'ai de quoi plugger.
Vas-y, Gab.
Juste dire des amis. Ben, c'est pas vraiment des amis, mais c'est des connaissances de Joliette.
Ils vont être choqués, là.
C'est pas nos
amis. Ben, c'est pas directement. Je vous explique. Il y a une nouvelle boutique d'un magasin qui est ouvert sur la rue Beauvier.
Ah, oh, oui, je sais. Que... Okay, vas-y, c'est bon.
Ah, oui. C'est ça, c'est la boutique C'est Beau. Ben moi, j'étais plus proche un peu d'Olivier Lamontagne, ah, qui est plus vraiment dans ça. Maintenant, il est plus DJ, là, mais là, c'est Raphaël Ricard qui a les rênes de la compagnie. Puis il a ouvert une deuxième boutique sur Beaubien, puis c'était, j'ai le calcul dans ma tête, c'est ce soir en ce moment, mais oui. C'est mais jeudi dernier. Ouais, donc moi, c'est sûr, je vais aller faire un petit tour. Là.
Donc le 22 novembre?
Exactement.
Écoute, j'essaie de trouver l'adresse, mais je ne l'ai pas encore. Mais je pense que c'est comme le 300 Beaubien.
C'est tout près de Saint-Laurent. Là.
Oui, c'est genre dans Beaubien, mais plus petite Italie, mettons.
Exactement.
Ouais, et voilà. Sinon,
Laurence, avais-tu quelque chose?
Je dirais qu'elle avait oublié mon nom.
Non, mais je l'ai comme laissé, ça n'avait rien à dire, je l'ai comme laissé un espace pour couper.
Ah, t'as pas besoin de laisser d'espace. J'ai juste une mention à faire. Je trouvais ça intéressant cette semaine. J'ai vu dans l'actualité passer. C'est un projet de loi pour que les termes mère et père n'existent plus, puis que ce soit remplacé par parent.
Sur les documents officiels?
Ouais.
Au fédéral?
Donc, que ce soit plus genré, comme que les enfants parlent de mon parent.
Ouais, mais tu sais, de remplacer père et mère par parent 1, parent 2.
Ce qui est drôle, c'est quand tu y penses, mettons juste, je sais pas, là, tu veux des prêts et bourses, puis ça te dit, donnez-moi le nom de famille de votre mère et celui de votre père. Mais, tu sais, moi, dans ma belle famille.
Il y en a un qui est un, puis l'autre est deux.
Mais dans ma belle famille, il y a un couple de femmes gays qui ont un enfant, puis là, je me dis qu'il va tout avoir ces paperasses-là, que c'est comme, il va falloir à chaque fois qu'il appelle, puis comme, je peux comprendre.
Ouais. Mm-hmm.
Je peux comprendre.
Mais à l'UQAM, oui, ça a passé, je sais pas certaine, ça a passé. Les étudiants peuvent maintenant changer de nom.
Ouais. C'est passé. Oui.
Ah ouais.
Mais pour les trans, c'est...
Ben c'est possible depuis quelque temps aux États-Unis, à Deakin's University, c'est possible.
Ah ouais, c'est bien, okay, je trouve,
ouais.
Parce que si, par exemple, moi, je me considère comme un homme, je m'habille comme un homme, bon, mais...
Le
professeur m'appelle Laurence, mais moi j'aime mieux me faire appeler Laurent.
Ouais, ouais.
Ben, il y a moins de malaise, tu sais.
Ben, c'est vrai, là.
Ben, c'est pas juste aussi pour les trans. Mettons, ça peut être. Donc, tu viens de l'extérieur. Mettons que ton nom, c'est
genre Bonvichet City.
Ouais, exactement. C'est vrai, t'as raison.
Ça veut dire, mettons, par exemple, ton nom s'appelle Bonvichet City Vong, mais tu pourrais demander à ce que.
Mike.
De te faire appeler seulement Von. Ouais. Ou Danny, ouais.
Ouais, tu sais, utiliser les deux.
Oh ouais.
C'est un ami.
On dit ça au hasard, là. C'est des noms comme ça. Mais...
C'est venu comme ça.
Ouais, pouf!
Non, mais c'est vrai, t'as raison. C'est pour ça aussi. Mm-hmm.
Et ben merci, Laurence. Puis moi, je voulais juste parler aussi qu'il y a présentement, il y a la grève aussi à la SAQ. Puis j'entends, je vois beaucoup de posts qui sortent pour parler genre comme quoi, comme ouais, les employés de la SAQ, comme ils chialent pour rien parce qu'ils sont payés 19$ et tout. Mais il faut comprendre que c'est pas ça l'enjeu. Que c'est,
non,
que c'est pas un enjeu
de
salaire. Ouais, c'est juste parce que mettons 19$, c'est beau, oui, mais quand tu fais un chiffre de 3 heures par semaine,
ça fait 10 ans que t'es là, puis tu fais
c'est
genre
précaire, les emplois là-bas, c'est incroyable. Quand je me suis informé là-dessus, là, c'est fou.
Ouais, fait que c'est comme...
J'ai déjà travaillé un an à la SAQ, hein, vous saviez pas?
Ah!
Oh.
J'avais été engagé.
T'as déjà fait ça?
J'avais été engagé.
T'as jamais travaillé?
J'ai jamais travaillé.
Ah.
J'ai jamais travaillé. Tout court, là, à un moment donné, j'ai juste comme continué ma vie.
Puis,
est-ce que t'es encore à l'emploi?
C'est une question qu'on pourra jamais répondre.
Ah, c'est drôle ça.
Ouais.
C'est pour ça qu'il est viré vers la bière.
Ah, oui.
C'est une rébellion.
Ben oui,
ouais, c'est vrai.
Mais ils vendent de la bière, SAQ. Mais non, ouais, puis aussi j'en parlais parce qu'il est arrivé.
Gab!
Non, j'avoue, non, mais ils vendent pas de la merde. Mais c'est parce qu'ils ont accès avec des produits les meilleurs au monde. Ils l'ont dans leur catalogue, je le sais, là. Mais ils se foutent tellement de la bière qu'ils commandent jamais ça. Ils ont tout le temps genre la bière d'Iron Maiden au lieu de commander genre les meilleurs triples belges faites par des moines qu'ils peuvent avoir là. En tout cas, c'est mon petit...
Mais pourquoi je parle de ça aussi, c'est parce que j'ai vu dans le journal L'Action.
Oh yes.
Comme le journal, mais pour ceux qui sont pas... On est tous comme l'anneau de doigt autour de la table. Mais pour ceux qui viennent pas du coin, c'est le journal de Joliette.
Ça les intéresse pas.
Oui, et puis non, mais il y a quelqu'un qui est arrivé, je pense que c'est à la sécu de Joliette, qui a menacé les grévistes avec des guns à plomb, là.
Attends, what?
Ouais.
Ça s'est passé à Joliette, ça?
Ben, je pense à Joliette, parce que j'avais vu ça dans L'Action.
Ah, ça se pourrait.
Ouais. Puis, en tout cas, pour vrai...
Sounds like Joliette. Ouais.
Fait que pour vrai, c'est juste comme respecter les lignes de piquetage, puis soyez gentils avec les grévistes. En tout cas, vous ne me verrez certainement pas acheter un vin hongrois à la SAQ de Montréal. Aucun nom.
Il paraît que c'était Jean-Philippe Vautier qui est arrivé avec son gun à plomb.
C'est arrivé, là?
Ah, mais il s'est expliqué à la soirée.
Ouais, il y avait quand même des bons points.
Pour son gun à plomb?
Non,
on mélange les histoires. En fait, histoire courte.
C'était pour son ami quelqu'un très malade.
Donc c'était pour, c'était comme... pour son souper là. Puis il voulait la gâter, il est allé chercher son vin préféré, là il est allé parler avec les grévistes.
Puis il a remboursé sa bouteille. Je veux dire, dans le sens, c'était une tempête dans un verre d'eau là. Tout était chill finalement.
Ouais.
On va finir ça avec Marianne parce que je pense que t'as une histoire à nous raconter que je voulais vraiment entendre puis on la garde pour la fin.
Génial, c'est une histoire très courte mais c'est juste qu'avant qu'on commence à enregistrer, on parlait un peu de la thématique enfance puis on se racontait des petites anecdotes puis comme on a brièvement mentionné, Félix puis moi, ça fait comme vraiment très très longtemps qu'on se connaît. On s'est rencontrés en troisième année?
En 2001, au début de la quatrième année,
okay,
quelques jours avant les attentats du 11 septembre.
Oui, ben oui. Fait que ça fait vraiment
peut-être des premiers moments qu'on s'est
parlé. C'est le genre de choses qu'on se souvient.
Exactement. Fait que oui, on a grandi ensemble, Colin. Puis en fait, Félix, souvent, c'était le seul gars dans mes parties de fête. Puis c'était vraiment mon seul chum de gars. Puis je sais pas pourquoi, j'aimais vraiment ça, le pogner, l'amener dans mon sous-sol et le travestir. Fait que j'ai beaucoup de photos de Félix déguisé en princesse, mais on y mettait vraiment toute la gomme. La robe, les tutus, la couronne.
C'est le début du théâtre.
Ben oui. Et apparemment, ça l'a suivi. Plus tard.
Ben, écoutez les autres épisodes, vous allez voir.
Théâtre donc.
Écoutez l'épisode théâtre.
J'encourage les gens à écouter les autres épisodes pour essayer de comprendre
surtout
où ça a amené.
L'épisode théâtre, là, vous allez comprendre beaucoup de choses.
Mais un jour, je ressortirai les photos que j'ai de Félix déguisé en princesse. Idéalement, le jour de son mariage, pour montrer ça à toutes ses amis. Et être certain de bien l'humilier.
On va être là, fait qu'on veut voir ça.
Écoutez, stay tuned.
Couverture en direct du podcast, mais même, tu sais, je suis allé aider Marianne à déménager.
Ben oui.
Et ça faisait un petit bout de temps, j'avais pas vu ses parents. Puis c'était comme.
Trouver ton diadème.
ils ont ramené.
Là. Mais ça a été comme un des sujets de conversation. Mais...
Oui, tout le monde s'en rappelait très bien de tout ce que je te faisais subir. Shots
fired! Oh, c'était instantané, ça.
C'est
vrai que c'est un peu gênant, mais en même temps, on dirait que j'étais assez fier de moi dans le sens que, tu sais, moi, pour moi, c'était un jeu, c'était drôle, là, alors que...
Tu te débattais, Félix.
Hein?
Tu te débattais.
Mais il l'a fait plusieurs fois.
Il se débattait.
Ah oui.
Mais je me débattais, mais j'étais consentant, là.
Oui, j'espère, sinon je vais me mettre à me sentir très mal.
Non, mais je veux dire, c'est peut-être une question que j'ai eue, je sais pas, mais tu sais, c'était le fun, je suis content que... Ben que,
non, on s'en fout aussi quand on est jeune. Je veux dire, sûrement, j'ai fait
je pense que je m'en foutais encore moins.
Je faisais ça à
tu t'en foutais pas?
Je m'en foutais encore moins, que les autres.
Ok, bon.
Ouais. Mais c'est des photos qui flottent dans l'espace.
ils sont quelque part. Je vais remettre la main dessus.
Ça serait le fun qu'on ait ça.
On préfère un scrapbook avec ça, moi, je pense.
Oui, c'est une très bonne idée.
On va coller des collants dessus, puis les coller dans une
feuille. J'ai rien à dire... contre Marianne, genre « Haha, t'as fait une maîtrise! » Je peux pas...
une intouchable.
J'ai quand même un peu martyrisé dans notre jeunesse en essayant de te mettre de force dans une robe de princesse. Toutes mes excuses. Mais en fait, je m'excuse pas vraiment, c'est très drôle.
Bon, mais c'est sur ça qu'on va compléter l'émission
troublante
d'aujourd'hui. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à nous suivre sur Facebook et sur Instagram at Magique le mot. Sinon, pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet www.lemotmagique.fun. Sinon, merci à mes collaborateurs Félix Bernier, Laurence Hull et Gabriel Hull. Merci à Marianne Dunberry de s'être joint à nous aujourd'hui.
Merci à vous de m'avoir invité, c'était vraiment
fun. Ouais, comme tout un bonheur. Pour vrai, tu reviens quand tu veux.
Ah, yay!
Les livres des éditions Les Malins sont disponibles en librairie et sur Internet sur lesmalins.ca.
C'est
en
plein ça.
Je m'appelle Anthony et je vous invite à être de nouveau à l'écoute mardi prochain. Vous écoutez Le Mot Magique. Passez une belle semaine. Bye-bye!